Pascal Jocalaz, bonjour. Je suis agent immobilier dans les Alpes-Maritimes. J'exerce également l'activité d'expert en évaluation immobilière et je suis formateur au métier de l'immobilier. Et tout comme vous, j'ai eu des difficultés à mettre en place ce process que nous avons dans nos agences vis-à-vis de la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme. Donc je vais vous accompagner pas à pas pour que vous puissiez, d'une part, bien comprendre cette législation, pourquoi elle a été mise en place, mettre en route votre process parce que lors des contrôles, c'est ce que la répression des fraudes viendra contrôler en premier. Et puis ensuite, nous allons travailler ensemble sur la découverte client et notamment sur la découverte client en matière de financement parce que le reproche qui nous est fait, c'est que nous n'allons pas assez au fond des choses en matière de financement lorsque nous traitons avec nos clients. Donner quelques chiffres pour que vous ayez bien en tête ce que représente la fraude fiscale en France, c'est à peu près 80 milliards d'euros et la fraude sociale représente 30 milliards d'euros. Donc vous comprenez que pour les États, les enjeux sont considérables et les attentats de 2015 ont pointé en évidence la législation sur la matière de terrorisme et donc les contrôles ont lieu. Et pour ceux qui ne respecteraient pas cette législation, sachez que les amendes sont colossales puisque ça peut même aller jusqu'à l'interdiction temporaire, voire définitive, d'exercer votre activité. Alors nous allons définir ce qu'est le blanchiment et je vais vous donner la définition telle qu'elle est prévue par le Code pénal du blanchiment. On nous dit que le blanchiment est le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. On nous dit également constitue un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Et donc bien évidemment, l'immobilier est concerné. Dans le blanchiment, le placement consiste à introduire des fonds d'opérations délictueuses. L'empilage permet de brouiller les pistes et l'intégration permet aux individus de tirer profit de ce blanchiment. Alors, le meilleur exemple que je puisse vous donner, une personne a acquis des fonds de façon délictueuse. Elle va donc dans une banque qui est moins regardante sur l'origine des fonds. Elle va déposer cet argent en banque et elle obtiendra un prêt du montant de l'argent qu'elle vient de déposer en banque. Et donc, elle aura blanchi par l'intermédiaire de banque. Alors, bien évidemment, ça n'existe pas dans les pays européens, le Canada, le Japon, les États-Unis, mais vous avez une liste de pays, notamment en Russie, où ce genre de pratique a encore lieu, puisque en 2008, par rapport à la crise des subprimes, une banque russe est tombée dans les mains de la mafia. Donc, bien évidemment, ils seront beaucoup moins regardants sur l'origine des fonds. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'immobilier est concerné. Il faut savoir qu'en France, chaque année, il y a à peu près 1 million de transactions. Et donc, l'investissement dans la pierre, pour quelqu'un qui veut blanchir, est un investissement intéressant. Parce que d'abord, ça va prendre de la valeur, très souvent. Et puis, l'investissement dans la pierre, ça reste quand même l'investissement de référence. En matière de location, donc la location est concernée si les montants des loyers dépassent 10 000 euros mensuels. Pour la location, c'est un petit peu moins vrai. La location est plus concernée sur le volet lutte contre le terrorisme, avec, je dirais, des appartements, des maisons qui sont louées dans le but de commettre des attentats. Donc on a deux volets différents, la transaction plutôt sur le volet du blanchiment et la location plutôt sur le volet du terrorisme. Voilà, donc l'État a prévu donc une législation. Cette législation, elle est là aussi pour nous prémunir, pour nous préparer à avoir les bons réflexes si d'aventure on devait croiser le chemin d'un blanchisseur en posant les bonnes questions. Donc cette législation, il ne faut pas la voir que pour une punition, c'est aussi une législation qui va nous permettre de nous former à, je dirais, repérer des opérations qui ne se passent pas dans le contexte habituel. Il faut savoir que nous sommes rentrés en transaction dans le dispositif en 1998, donc vous voyez qu'il est temps que nous nous mettions en phase par rapport à cette législation. La location, c'est beaucoup plus récent, et je le rappelle, c'est pour des montants, quelle que soit la location, hein, que ce soit une location de résidence principale, saisonnier, qui dépasse les 10 000 euros mensuels. L'activité de syndic a été pendant un court laps de temps concernée, elle ne l'est plus, donc les syndics ne sont pas soumis à cette législation. Une mention importante concerne les agents commerciaux. Les agents commerciaux, vous êtes des indépendants, c'est-à-dire que vous travaillez sous le couvercle d'une carte professionnelle, qu'a votre responsable d'agence, le gérant de la société. Et donc les agents commerciaux sont considérés par rapport à cette législation comme des travailleurs, travailleurs indépendants et des patrons. Et donc, ils peuvent être amenés à être condamnés, on va le voir, en même temps que l'agence et en même temps que la société. qui est géré par le responsable. Donc il ne faut surtout pas que les agents commerciaux pensent être à l'abri de cette législation. Vous pourrez répondre de vos manquements par rapport à cette législation, tout comme le responsable d'agence et tout comme la société. Alors comment tout a commencé? Nous sommes en 1998, certains pays se réunissent, ça s'appelait à l'époque le G7, donc il y avait la France, le Japon, le Canada, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne, et ces pays donc décident de mettre en place un service pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce service en France s'appelle TRACFIN, traitement contre les circuits financiers clandestins. TRACFIN, c'est une grande moulinette, c'est un serveur informatique qui va collationner un maximum de renseignements. Ça peut provenir des URSSAF, de la sécurité sociale, et puis aussi, on va le voir, de la répression des fraudes. Son but, c'est de passer tout ça à la moulinette, de manière à vérifier si des opérations peuvent être classées d'opérations douteuses. Et c'est la raison pour laquelle, puisque l'immobilier est concerné, que nous devons, à un moment donné, par rapport à la typologie de nos clients, par rapport à la typologie des biens, lorsqu'on se rend compte qu'une opération ne se passe pas dans un contexte habituel, vous verrez, nous allons aborder ce qu'on appelle la déclaration de soupçon, qui est la conclusion à laquelle un professionnel parvient après avoir pris en compte des critères pertinents. TRACFIN, c'est à peu près 200 personnes. Il y a plusieurs pôles qui sont dédiés à leur service. Et il a été créé en 2015, un pôle concernant le terrorisme. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les services de TRACFIN, il n'y a pas de secret professionnel. Les services de TRACFIN peuvent demander tous les renseignements concernant une transaction. Et donc, on ne peut pas y opposer le secret professionnel. Donc les notaires, les avocats, les agents immobiliers, il y a énormément de professions qui sont dans le dispositif. Alors on a classé ces professions en deux catégories, les professions financières, notamment les banques, qui ont leur propre organisme de régulation, de contrôle, et puis les professions non financières, dans lesquelles on va trouver les agents immobiliers, les directeurs de casinos, les directeurs de champs de course, les vendeurs de pierres précieuses, les marchands d'art, qui eux, relève au niveau de l'application de la loi de la répression des fraudes. Un autre élément de TRACFIN, c'est que les services de TRACFIN peuvent s'opposer à la réalisation d'une opération. L'idée étant de bloquer les fonds qui proviennent d'activités délictueuses avant que ça parte dans un pays étranger. Donc c'est une possibilité qu'ont les services de TRACFIN. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif de lutte est basé sur l'appréciation du risque. Et on vous dit, l'évaluation du risque définit la cartographie. Vous allez devoir mettre en place, et je vais vous y aider, une cartographie des risques par rapport à votre clientèle, par rapport à votre situation géographique, par rapport aux opérations que vous commercialisez. La cartographie définit la vigilance à observer. Effectivement, si vous avez une clientèle qui ne présente pas de risque de blanchiment, vous avez une vigilance qui sera une vigilance relativement faible. Et puis ensuite, vous aurez à mettre en place un scoring du risque pour vous aider à prendre la décision. Au bout du bout, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette transaction? Est-ce que je fais ma déclaration de soupçon? Et ça, c'est au travers du scoring que nous allons le voir. Donc pour votre cartographie de risque, la première chose que vous allez devoir mettre en place, c'est analyser votre clientèle. C'est-à-dire avec quel client j'ai l'habitude de travailler. Nous n'avons pas tous les mêmes clients. Certains travaillent avec des frontaliers, certains travaillent avec des étrangers. Et vous voyez bien que par rapport à cette législation, ce ne sera pas du tout la même chose si on travaille avec un Italien, puisque l'Italie est dans le dispositif, avec un Allemand, l'Allemagne est dans le dispositif, que si nous travaillons avec un Qatari. Donc ça veut dire que vous allez en premier lieu établir et analyser quelle typologie de clients vous traitez en agence. Est-ce que ce sont des personnes physiques? Est-ce que ce sont des personnes morales? Est-ce que je travaille avec des résidents? Est-ce que je travaille avec des non-résidents? Est-ce que je travaille avec des retraités? Un retraité, par exemple, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui a de l'apport personnel. Donc le risque par rapport à un retraité est plus grand qu'un primo-accédant qui va donc acheter un bien avec une banque qui va le financer à 100%. Et donc dans la cartographie des risques, l'analyse est une analyse qui doit être pointue et chaque agence doit faire son analyse. On n'a pas tous les mêmes clients, on ne travaille pas tous sur le même secteur géographique. Quelqu'un qui a une agence à Courchevel, par exemple, et qui va travailler avec des pays de l'Est, à fort pouvoir d'achat, aura une clientèle, me semble-t-il, plus risquée que si je travaille dans un autre coin de France avec des primo-accédants. Il ne faut pas oublier non plus que dans le dispositif, il y a des professions qui ont été classées professions à risque. Je vais vous en citer plusieurs. Le BTP, les bâtiments et travaux publics, L'informatique sont des professions qui sont pointées comme étant des professions sujettes à du blanchiment. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui travaillent dans le BTP sont des blanchisseurs en puissance, mais ça doit vous alerter. Et donc, il faut se tenir au courant par les publications. Hein. Vous verrez, à la fin de la formation, je vais vous parler des différentes publications en accès sur Internet. Et vous allez devoir vérifier quelles professions sont sujettes à ces problématiques. Alors, une notion importante, c'est les personnes politiquement exposées, qui au départ concernaient uniquement les personnes étrangères et qui petit à petit est venue également pour les personnes françaises. Et donc, le cas le plus typique, c'est l'élu local en charge de la politique d'habitat de sa ville, qui a aussi un bureau d'études et une entreprise de BTP. Donc, tout ça présente un cocktail explosif. Et donc, en matière de lutte anti-blanchiment, par exemple, il faut savoir que dans le process, à partir du moment où vous travaillez avec des personnes politiquement exposées, ce n'est plus le collaborateur qui peut décider de poursuivre ou pas la relation d'affaires, mais il doit en informer sa hiérarchie de manière à ce que le patron, le responsable d'agence, le gérant, soit au courant qu'on est en train de traiter avec l'agence une personne politiquement exposée. Il est conseillé pour respecter parfaitement la législation d'aller sur un certain nombre de sites, et notamment le site du ministère de l'Économie et des Finances, puisqu'ils ont publié ce qu'on appelle les lignes directrices des agents immobiliers. Donc c'est un élément important, c'est dans la législation, c'est les spécificités de votre métier d'agent immobilier, où vous allez apprendre comment identifier les personnes, à quel moment les identifier dans votre relation d'affaires. Il faut comprendre que le législateur nous laisse de la latitude par rapport à ce que nous devons faire en agence, parce que qui connaît mieux les clients que l'agent immobilier et ses collaborateurs? Donc c'est à vous d'aller chercher ces éléments, notamment les lignes directrices, où vous allez apprendre à quel moment on va devoir récupérer la pièce d'identité. Il faut savoir que le recul de l'anonymat en matière de lutte anti-blanchiment est extrêmement important, puisque lorsqu'on blanchit l'argent, généralement on va rester en retrait, on va avancer ce qu'on appelle masqué, en sous-marin. Et donc, il est important que l'agent immobilier puisse très rapidement, en tout cas le plus rapidement possible, connaître le bénéficiaire de la transaction. Les lignes directrices qui ont été donc publiées par le ministère de l'Économie et des Finances nous donnent des axes de travail. Alors, vous allez voir, c'est même un petit peu contradictoire. On nous dit l'agent immobilier doit identifier la personne le plus en amont de la relation d'affaires, c'est-à-dire lorsque le client manifeste un intérêt. Alors, manifester un intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être téléphoner à une agence pour visiter un bien, c'est peut-être téléphoner à une agence pour, je dirais, rechercher un bien en location. Ça, c'est la première partie. Et puis, on a une deuxième partie qui nous dit, oui, mais pour qu'on puisse identifier la personne, et en tout cas le point de départ de cette identification, ça repose sur la relation d'affaires contractuelle. Alors, c'est quoi? Relation d'affaires contractuelle, c'est à partir du moment où il y a un document qui est signé. Vous voyez, il y a une petite contradiction. Un document signé, c'est quoi? Ça peut être un bon de visite. Alors, est-ce que c'est réellement contractuel? Peut-être pas. Mais en tout cas, le législateur nous dit, attention, à partir du moment où vous avez un client avec lequel vous êtes en train de formaliser un contrat, c'est-à-dire un mandat de vente, un mandat de recherche, et on va voir les différents systèmes, à partir du moment où vous faites un bail, et je vous rappelle, pour un montant de loyer supérieur à 10 000 euros mensuels, sinon ça ne rentre pas dans le dispositif, à partir du moment où je signe une offre d'achat, à partir du moment où je signe un compromis de vente, je dois être en possession d'un document d'identité permettant de vérifier à qui j'ai affaire. Dans les pièces d'identité qui sont à demander, c'est la carte nationale d'identité, le passeport ou titre de séjour, le permis de conduire étant un diplôme et donc n'est pas un document qui atteste de l'identité d'une personne. Donc vous voyez que votre rôle, et c'est pour ça que le législateur compte sur vous, c'est que vous devez identifier vos clients. Il y a énormément d'agences qui, au travers d'une autre législation qui est de se protéger par rapport aux honoraires, demandent la pièce d'identité dès la visite. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ça répond parfaitement à deux objectifs. Se cadrer par rapport à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme, et puis aussi protéger ses honoraires, parce qu'à partir du moment où on a signé un bon de visite avec son client, qu'on a sa pièce d'identité, on est certain que le nom qu'il nous a donné sur le bon de visite est bien le nom que nous avons sur la pièce d'identité. Donc vous voyez que la lutte anti-blanchiment, elle permet d'être meilleure aussi concernant, je dirais, notre propre métier et notre découverte client avant de partir en visite. Et c'est à vous à trouver le bon tempo. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement avoir la pièce d'identité quand on part en visite, mais en tout cas, ceux qui le font, pour protéger leurs honoraires, rentrent parfaitement dans le dispositif de la lutte anti-blanchiment. Et ensuite, les lignes directrices nous disent, à partir du moment où on signe le compromis, à partir du moment où on signe le bail, là, il est impératif d'avoir la pièce d'identité. Et la législation va même encore plus loin. Pour le client ou locataire qui ne voudrait pas s'identifier, vous l'avez certainement rencontré, vous avez des clients qui peuvent vous dire, je ne donnerai pas ma pièce d'identité à un agent immobilier de quartier. Là, la loi, elle est très stricte. Vous devez rompre immédiatement la relation d'affaires. En clair, vous raccompagnez le client à la porte de votre agence. Alors, vous allez me dire, il va aller voir les autres, mais c'est le but. Le but, c'est qu'il aille voir une autre agence et que dans cette agence, ce soit exactement la même chose, qu'on lui dise, monsieur, je ne peux pas travailler avec vous si vous ne vous identifiez pas. Et ensuite, il ira sur le marché du particulier et ça sera le problème des banques et des notaires et plus des agents immobiliers. Alors, dans mon cabinet, lorsque j'ai eu à réfléchir sur cette législation, j'ai essayé de regarder un petit peu les points forts de mon agence et je pense que quand on fait ce métier depuis de nombreuses années, on a un petit peu d'intuition. On sent les clients. Je sais par exemple que tel ou tel client, ça ne va pas forcément bien se passer parce qu'on a cette intuition. Et donc la législation, elle est basée beaucoup sur l'intuition. Vous verrez quand on va parler du soupçon, qu'est-ce que c'est qu'un soupçon? Un soupçon, c'est une intuition. C'est une intuition défavorable, on n'a pas de preuve, mais on sent qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et donc vous allez être amené dans vos agences à développer et à rendre plus pertinentes vos fiches de découverte client. Vous allez avoir à vous poser un certain nombre de questions que nous allons voir ensemble. Et l'idée, c'est de rapidement se faire une idée plus précise de son client. Les trois axes que j'ai mis en place dans mon agence par rapport justement à cette intuition, c'est le profil et le comportement du client qui va vous apprendre un certain nombre de choses. C'est la typologie des biens que vous allez proposer. Et puis vous avez le financement et le montage des opérations. Et à partir de ces trois axes, en tout cas c'est les trois axes que j'ai choisis, il y en a d'autres, vous pouvez en décrire d'autres axes, par exemple la profession, vous pouvez faire une découverte très très stricte sur la profession parce que vous êtes amené dans votre situation géographique à travailler avec des gens qui sont plutôt dans le BTP, et on a vu tout à l'heure que c'était une profession à risque. En tout cas c'est vous qui avez la maîtrise, c'est-à-dire vous avez une latitude dans vos cabinets pour mettre en place cette cartographie des risques. Donc un élément important de cette législation, c'est qu'au niveau de ces fiches découvertes que vous pourrez télécharger en PDF, vous allez devoir faire un travail en agence qui est de les faire coller à votre activité, à votre clientèle, à, je dirais, un petit peu l'ambiance de votre agence. Ce ne sont pas des fiches à repomper bêtement. Parce qu'en cas de contrôle, ça pourrait vous être reproché. Vous devez vraiment faire votre propre process à l'intérieur de votre agence. C'est un process qui est un process lié à votre clientèle. Alors nous allons voir ensemble quelles sont les pièces à réclamer pour une personne physique. Alors une personne physique, je vous l'ai dit précédemment, la première des choses à demander, c'est sa pièce d'identité, carte nationale d'identité ou passeport, titre de séjour également. C'est le premier point, puisque nous devons participer au recul de l'anonymat dans cette législation. Ensuite, bien évidemment, tout ce que vous avez déjà l'habitude de demander, les numéros de téléphone, l'adresse mail. Et on sera vigilant, par exemple, sur tout ce qui concerne, vous le verrez dans les exemples, les adresses un petit peu bizarres, postes restantes, des adresses qui favorisent un petit peu l'anonymat. On va demander, bien évidemment, les documents concernant le financement. Et c'est là où on a de gros efforts à faire. On constate, et ce sont les avocats qui nous le disent, que beaucoup d'agents immobiliers sont appelés en responsabilité parce qu'ils n'ont pas, en matière de financement, posé les bonnes questions. Ils ont engagé des acheteurs sur simplement du verbal. Ils ont bloqué les biens d'un vendeur simplement sur du verbal en matière de financement. Et lorsque, pour une raison ou pour une autre, le financement ne se réalise pas, le vendeur pourrait reprocher à l'agent immobilier d'avoir engagé quelqu'un de façon un petit peu légère, et puis l'acquéreur, la même chose, il pourrait très bien dire, vous n'avez pas été au fond des choses, vous m'avez engagé un petit peu à la légère. Alors bien sûr, on est protégé Les vendeurs sont protégés, les acquéreurs sont protégés par la condition suspensive de crédit. Mais on peut se poser la question, est-il normal de bloquer un vendeur simplement sur une affirmation de l'acquéreur qui nous affirme qu'il a 30 000 euros d'apport sans avoir le moindre justificatif? Donc la question peut se poser, à quel moment on se contente du déclaratif et à quel moment il faudra donc obtenir un document. Alors, pour une clientèle qui ne représente pas de risque, parce que les métiers ne sont pas des métiers à risque, parce que la personne, je dirais, n'est pas réticente à nous donner un certain nombre de renseignements sur son financement, on peut se contenter du déclaratif. Et puis, plus la clientèle monte en risque, plus les documents seront importants. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on s'attache à récupérer autant que faire se peut un document de la banque, une attestation du notaire, tentant à démontrer que cette personne vient de vendre un bien et qu'elle a la capacité financière à s'engager. Et surtout, on va pouvoir justifier de son apport personnel. Ça, c'est par rapport au volet de la lutte anti-blanchiment, mais ça sera également important lorsqu'on va aller transmettre une offre à un propriétaire, de pouvoir lui démontrer que les 30 000 euros d'apport, c'est pas que du vent, on a un papier de la banque qui l'atteste. Donc on va être en phase avec la réglementation sur la lutte anti-blanchiment et puis on va aussi sécuriser notre transaction parce que je pense, et vous serez d'accord avec moi, qu'à partir du moment où le vendeur hésite entre deux offres, il aura tendance à choisir celle qui a le plus d'apport et si en plus cet apport est démontré par un papier de la banque, je pense que le vendeur sera beaucoup plus sécurisé que si on est plutôt sur du verbal. Donc on vient de voir les personnes physiques, on a également une fiche qui est prévue pour les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés. Donc concernant les personnes morales, ce qui est important également, c'est de récupérer auprès de Greftel, Infogreffe, toutes les informations concernant le CABIS, hein, savoir si l'objet social est compatible avec l'acquisition que souhaite faire la personne. Un mécanicien qui achète un terrain pour y stocker des voitures, pour le présenter à la clientèle, ça ne pose aucun problème. Maintenant, si ce même mécanicien, ce même garage achète un chalet à la montagne, effectivement, il y a peut-être un problème de blanchiment. Donc l'idée, c'est de récupérer ces documents, c'est de vérifier également s'il n'y a pas de changement fréquent de gérant, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est une des particularités du blanchiment, le changement souvent fréquent de gérant. Et donc à partir du moment où vous avez récupéré ces documents, en cas de contrôle, vous pourrez justifier à la répression des fraudes que vous avez correctement fait votre petit travail d'agent immobilier avec des moyens qui sont somme toute assez limités, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous demande de faire. Vous avez également un autre site important à consulter, c'est le site du GAFI. Le GAFI, c'est le Groupement pour l'Action Financière. Et le GAFI a édité des listes de pays non coopératifs qui sont placés en liste noire, avec lesquels il faut prendre des précautions lorsqu'on travaille avec des ressortissants issus de ces pays. Ça veut dire que la législation est beaucoup plus light en matière de blanchiment, voire complètement inexistante. Et donc, bien évidemment, on ne va pas travailler le client qui vient d'un pays qui est sur liste noire du GAFI de la même façon qu'un client italien ou allemand, à partir du moment où son pays répond à des obligations législatives très strictes. Et il y a également une deuxième liste qui est une liste grise de pays qui font des efforts, mais qui ont quand même pris du retard. Et le GAFI donc publie ces listes de façon assez fréquente, et il est important pour vous d'aller les consulter. Par exemple, la Tunisie, qui était classée en liste grise, est sortie du classement, donc ça veut dire que les ressortissants venant de Tunisie et souhaitant acquérir un bien immobilier, on n'a pas de prescription par rapport au GAFI. Et par exemple, le Yémen est toujours classé en liste noire. Donc il faut être vigilant à partir du moment où nous allons traiter une opération immobilière avec des ressortissants du Yémen. Un autre site important à consulter en fonction de votre clientèle, c'est le registre des avoirs gelés. Pour les personnes qui ont détourné des fonds dans leur pays respectif, ces personnes ont les comptes bancaires bloqués, ont le patrimoine qui est saisi, et donc en tant qu'agent immobilier, il nous est interdit de commercer avec eux. Donc le tableau est assez bien fait hein, sur le site, c'est un tableur Excel, on rentre les coordonnées de la personne et on voit si cette personne a ses avoirs gelés. Je ne dis pas qu'on va y aller tous les jours, mais de temps en temps, pour une clientèle bien spécifique, c'est intéressant d'y accéder. Je vais vous donner deux exemples donc, de familles avec lesquelles nous ne pouvons plus commercer, la famille Omar Bongo en Afrique, la famille Ben Ali en Tunisie. Donc ces familles ont leur patrimoine qui est gelé. Et donc bien évidemment, nous ne pouvons plus travailler avec eux. Un autre site important à consulter, c'est le site de TRACFIN. TRACFIN va vous alerter sur un certain nombre de problèmes, notamment lorsqu'il y a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les renseignements généraux savaient que certaines personnes pouvaient quitter l'Ukraine avec de l'argent plus ou moins malhonnêtement gagné. Et donc, bien évidemment, si vous travaillez avec les Ukrainiens, il est important d'aller sur le site de TRACFIN. Ça a concerné ces alertes la Libye, ça a concerné l'Ukraine. Et donc, vous devez, à ce moment-là, adapter votre niveau de vigilance, puisque les services vous disent qu'il y a danger avec cette population. Donc nous allons maintenant revenir sur la cartographie des risques et les risques qui sont liés au comportement et au profil de vos clients. Bien évidemment, ces questions sont à adapter, hein, je le répète, à la clientèle de votre agence. Donc sur le tableau, vous allez voir qu'il y a sur la colonne de gauche les critères de risque, c'est-à-dire les questions à se poser en matière de découverte. Et ensuite, il y a la classification du risque. Et vous avez des commentaires. Et bien évidemment, comme ce document est écrit, il restera dans le dossier de votre acquéreur ou de votre locataire, de manière à pouvoir le montrer à la répression des fraudes en cas de contrôle. La première ligne, par exemple, on a que le client présente ses documents d'identité. Donc à partir du moment où le client a un comportement tout à fait neutre, à partir du moment où on lui demande sa pièce d'identité et qu'on ne sent pas une certaine réticence, il est évident qu'on va classer au niveau du risque, me semble-t-il, en risque faible, sachant que vous avez le libre arbitre de choisir le risque. C'est votre clientèle, ce sont vos clients. Moi, je vous dis ce que je ferai dans mon agence, mais vous pouvez avoir un avis différent. Si le client refuse de présenter ses documents d'identité, il va falloir essayer de connaître la raison. Peut-être qu'on a mal demandé la pièce d'identité, peut-être qu'on n'a pas suffisamment expliqué pourquoi on avait besoin de cette pièce d'identité. Et à partir du moment où on a donné les explications, si le client persiste à ne pas vouloir s'identifier, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important, il y a donc une rupture immédiate de la relation d'affaires, c'est prévu par la loi. Donc le risque est très élevé, et donc dans les commentaires, on notera à refuser de présenter sa pièce d'identité malgré plusieurs demandes, et donc nous avons rompu la relation d'affaires. En cas de contrôle de la répression des fraudes, ça permettra d'expliquer au contrôleur qu'on connaît la législation et que nous n'avons pas poursuivi notre relation commerciale avec quelqu'un qui veut rester anonyme. Si le client souhaite s'identifier par d'autres moyens que la carte nationale d'identité ou le passeport ou le titre de séjour, il va falloir un petit peu creuser. Il est possible qu'il ait perdu son passeport, il est possible qu'il ait perdu tous ses papiers. Et à ce moment-là, on marquera dans la colonne observation qu'on va devoir le relancer pour récupérer ses documents. Chose que nous ne faisions pas avant cette législation. Donc on notera dans la partie observation, dans 15 jours, dans un mois, je le relance parce qu'il a perdu sa pièce d'identité. Alors bien sûr, c'est un peu de paperasse, hein, je vous l'accorde, on a de plus en plus de tâches administratives à faire dans nos agences, mais c'est important de bien se conformer à cette législation. Un élément important, c'est le client qui ne visite pas un bien. Il nous arrive d'avoir dans notre clientèle des clients qui ne souhaitent pas, pour X raison que ce soit, visiter le bien. Alors il faut savoir que, par exemple, dans la période du confinement où les visites étaient interdites, bah, effectivement, on ne peut pas visiter, donc ça n'est pas surprenant que le client reste chez lui puisque les avions sont cloués au sol. Donc vous voyez bien la différence entre il y a un problème, je dirais, de crise sanitaire qui empêche de visiter le bien, auquel cas ça pose pas forcément de difficultés. Parce qu'on peut l'expliquer. On peut également avoir l'exemple, et ça m'est arrivé, d'un client qui souhaite acheter un appartement qu'il a loué en saisonnier l'année dernière. Donc, il vous contacte et il vous demande des informations concernant cet appartement. Et si cet appartement, il le connaît déjà parce qu'il l'a loué au mois d'août l'année dernière, ça ne me présente pas de difficulté d'expliquer dans mes observations, ayant déjà loué cet appartement en saisonnier, la personne a décidé de ne pas le revisiter. Je lui ai simplement envoyé les photos d'aujourd'hui pour qu'il puisse comparer par rapport à l'image qu'il en avait gardée lors de ses vacances. Et donc là, on peut justifier qu'il ne vienne pas visiter le bien. Par contre, si on n'a pas de justification, là, il y a peut-être danger de blanchiment. Et je vous rappelle que lorsqu'un client ne visite pas le bien, le collaborateur doit informer sa hiérarchie de manière à ce que le patron puisse prendre la décision. En tout cas, de poursuivre ou pas la relation d'affaires et en tout cas d'aller beaucoup plus loin dans la découverte du client. Donc une précision, bien évidemment, ces questions que nous nous posons et que nous devons poser à nos clients concernent aussi la location. Comment se fait-il qu'une personne qui souhaite louer un bien n'ait pas envie de visiter le bien? Alors peut-être que les justifications qui vont nous être données sont cohérentes ou bien elles ne le sont pas. C'est pour ça que la découverte doit être un petit peu plus poussée que ce que nous avions l'habitude de faire jusqu'à présent. Alors dans les opérations de blanchiment, il y a souvent un dénominateur commun, c'est qu'on a une personne qui représente les acheteurs potentiels. Donc là aussi, dans la découverte, comment se fait-il que celui qui va réellement acheter, qui va réellement se titrer, comment se fait-il qu'il ne fasse pas la visite? Il peut y avoir des justifications tout à fait plausibles, hein. La personne peut être à l'étranger, elle peut être à l'hôpital. Donc c'est pour ça que dans la découverte, on va poser la question, comment se fait-il qu'elle ne vienne pas visiter? Si les raisons qui vous sont données vous semblent cohérentes, eh bien, très bien, vous mettrez dans votre tableau que le risque vous paraît normal, voire élevé, hein, c'est vous. En tout cas, il n'est pas faible, me semble-t-il. Et puis, au fur et à mesure de votre relation d'affaires, vous noterez, hein, les éléments nouveaux. Puis, à un moment donné, cette personne pourra peut-être prendre 15 jours de congé pour vous rencontrer. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs professions qui sont un petit peu dans le collimateur, notamment le BTP, la restauration, parce qu'il y a une grande circulation de cash. Et donc, au niveau du risque, par exemple, vous ne pourrez pas forcément le mettre en risque faible, puisque vous savez que ce sont des professions à risque. Pour autant, s'il y a juste ce point qui peut poser éventuellement un problème, on pourra considérer, quand on va faire le scoring, que ça ne justifie pas de faire une déclaration de soupçon, puisqu'on a juste une profession qui est indiquée. Si tout le reste colle au niveau du financement, on va pouvoir se dire que c'est une opération qui se déroule dans des conditions normales. Un autre élément important concernant le profil du client, il arrive que le client, parce qu'il veut justement un certain anonymat, va donner des noms différents entre la signature du bon de visite, la signature de l'offre d'achat et la signature du compromis. Donc bien évidemment, un client qui cherche à masquer, voire à tromper au niveau de son identité, présente un risque important de blanchiment et c'est quelque chose qu'on reverra dans les exemples, puisque dans les exemples qui touchent l'immobilier, très souvent, nous avons des personnes qui veulent favoriser l'anonymat. Et c'est un élément que nous verrons en fin de formation. Autre élément très important dans le comportement du client, il arrive que le négociateur fasse correctement son boulot parce qu'il a été en formation, il a été sensibilisé par son patron. Et parce que vous avez un mandat exclusif sur un bien et que le collaborateur fait correctement son job, le client va demander à changer d'interlocuteur au sein de l'agence. Il va prétexter que la personne collaborateur n'est pas très sympathique et il va vouloir travailler avec quelqu'un d'autre. Et ça doit alerter le directeur d'agence. Il faut tout de suite appeler son négociateur en disant qu'est-ce qui se passe avec ce client. C'est arrivé dans certaines agences, c'est pour ça que je vous le signale. C'est pas forcément de la faute du collaborateur, c'est peut-être qu'il appuie là où ça fait mal et que le client acquéreur se met en position défensive et va tout faire pour changer d'interlocuteur au sein de l'agence. Nous devons également vérifier s'il y a une cohérence entre le profil de l'acheteur et ses revenus. Bien évidemment, quelqu'un qui achèterait un bien à 800 000 euros, s'il est joueur de foot professionnel, c'est cohérent. Maintenant, s'il n'a pas de revenus, vous comprenez bien qu'on doit se poser d'autres questions. Comment il va financer son opération? Alors, il a peut-être hérité, probablement. Et donc, s'il a hérité, effectivement, à partir du moment où il donne un certain nombre de justificatifs, au départ, on peut avoir un a priori de risque élevé, et à partir du moment où j'ai les documents qui démontrent que son père lui a donné une partie de l'usine qu'il a vendue, à ce moment-là, nous sommes sur un client qui présente un risque faible. Donc le financement est capital. Par rapport à cette législation, un point sur lequel nous devons progresser, c'est la solvabilité des acquéreurs. Il est important que vous vérifiez si les revenus sont en adéquation avec le bien que souhaite acheter ou louer votre locataire. Au niveau de la location, les transactionnaires qui font de la location ont pour habitude, hein, et c'est un élément important de critère de choix du locataire, ont l'habitude de vérifier la solvabilité des candidats à la location. Pour les transactionnaires, c'est un petit peu plus compliqué et on constate très souvent dans les agences qu'on fait confiance à ce que nous dit l'acquéreur sans forcément vérifier. Donc la vérification de la solvabilité, elle incombe à l'agent immobilier. Et il y a de nombreuses condamnations parce que les agents immobiliers n'ont pas vérifié la solvabilité. Alors, lorsqu'on ne vérifie pas la solvabilité d'un candidat acquéreur, il y a deux problèmes. On bloque le bien pendant un certain laps de temps, donc ça pourrait nous être reproché par le propriétaire. Et puis, on va engager un peu à la légère un acquéreur. Et par exemple, pour ceux qui vendent des terrains à bâtir dans certaines régions, entre le moment où on signe le compromis et le moment où l'acte authentique est signé, il va s'écouler à peu près 12 mois. Donc vous imaginez, si on bloque le bien pendant 12 mois, le vendeur va nous dire, vous auriez pu quand même vérifier un petit peu le financement. Alors, on n'est pas la Banque de France, hein, bien évidemment, on n'a pas beaucoup de pouvoir d'investigation, mais de demander à un client combien il gagne, ce n'est pas interdit, c'est même obligatoire, d'où provient son apport personnel, et de vérifier à minima s'il a les capacités d'emprunt. Bien évidemment, il y aura la condition suspensive de l'obtention du prêt, mais on doit vérifier la solvabilité et l'origine des fonds. Je m'adresse aussi aux agents immobiliers qui ont une garantie financière et qui encaissent l'acompte sur leur compte séquestre. Avant cette législation, on ne s'attardait pas trop sur la provenance des fonds. À partir du moment où vous avez un virement qui arrive sur votre compte séquestre, vous devez vous inquiéter de savoir quel est le pays d'origine de ce virement. Si le pays d'origine de ce virement est l'Allemagne, aucun problème. Si c'est les îles Caïmans, là, il y a souci. Et deuxième chose, par rapport à ceux qui ont la garantie financière, il y a eu un exemple de blanchiment où vendeur et acquéreur étaient de mèche. C'était donc des blanchisseurs qui avaient mis une stratégie de blanchiment en place. Et donc les compromis étaient signés et il y avait systématiquement rétractation de l'acquéreur. Et donc le compte séquestre servait à blanchir de l'argent parce que l'agent immobilier n'avait pas bien vérifié la provenance des fonds. Ça arrivait d'un paradis fiscal. Donc votre intérêt, lorsque vous êtes agent immobilier avec la garantie financière, c'est de bien, bien, bien regarder quel est le pays qui émet le virement. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les notaires ne prennent plus de chèques. Parce que lorsque vous faites un chèque de banque, c'est le nom de la banque qui est marqué sur le chèque et pas l'individu. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille quasiment qu'avec des virements pour les transactions qui dépassent un montant de 3 000 euros. Donc à titre d'exemple, il y a une condamnation de 2017 qui condamne à 12 000 euros d'amende d'un agent immobilier qui avait commis deux erreurs. La première, engager un petit peu facilement l'acquéreur sans vérifier la solvabilité. Donc il a bloqué le bien et il a créé donc un préjudice pour le vendeur qui a ce qu'on appelle la perte de chance de le vendre à un acquéreur solvable. Ça a été la première erreur de l'agent immobilier. Deuxième erreur de l'agent immobilier, c'est qu'il n'a pas mis le chèque d'acompte à l'encaissement. Et donc les juges ont, à juste titre, considéré qu'il avait commis deux fautes et que ces fautes avaient engendré un préjudice. Et lorsqu'il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice, il faudra répondre de ses actes. Et donc la condamnation a été de 12 000 euros pour l'agent immobilier. Donc maintenant, nous allons voir au niveau de la cartographie des risques tout ce qui concerne le financement et le montage de l'opération. Le tableau traite par exemple des biens de grande valeur. Alors les biens de grande valeur, ça va dépendre un petit peu de votre cabinet. Dans mon cabinet, pour moi, un bien de grande valeur dans mon secteur géographique, c'est un bien qui va dépasser les 800 000, 1 million d'euros. Il est clair que dans certaines régions, 1 million d'euros, c'est classique, ce n'est pas forcément un bien de grande valeur. Donc, dans mon cabinet, un bien de grande valeur, pour moi, présente un risque, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de travailler au quotidien. Une agence qui sera spécialisée dans l'immobilier de luxe, un bien de grande valeur, ça va être ce qu'elle a l'habitude de faire, et ce n'est pas forcément un bien qui représente pour elle un risque. Donc, vous voyez qu'à chaque question, il faut l'adapter à votre clientèle et surtout à la typologie aussi du secteur dans lequel vous travaillez. On n'aura pas du tout la même approche si on est à Courchevel, à Paris, à l'île de Ré, que dans certains autres coins de France. Il y a un point très important à vérifier, c'est est-ce que le bien qui est vendu est conforme au prix du marché? Ça, c'est capital parce que votre métier, c'est d'évaluer. Aujourd'hui, on a tout un tas de sites qui nous aident dans la démarche. Et donc, dans les opérations de blanchiment, très souvent, ce qui se passe, c'est que vendeurs et acquéreurs sont de connivence et que lorsqu'on a blanchi de l'argent, on ne s'intéresse pas du tout, je dirais, ni à la capitalisation du bien, puisqu'on n'a pas payé TVA, on n'a pas payé d'impôts. Et donc, la personne qui vend, elle peut être amenée à vendre bien en dessous de la valeur du marché, puisque c'est de l'argent qui a été blanchi. Et donc, le rôle de l'agent immobilier, c'est de savoir pourquoi on vend en dessous du prix du marché. Il peut y avoir des justifications. Je vends en dessous du prix du marché parce que je divorce. Je vends en dessous du prix du marché parce que j'ai des problèmes financiers et j'ai les huissiers à la porte. Ou bien je vends en dessous du prix du marché parce que je suis muté et je vais aller travailler aux États-Unis. Ou là, il y a une urgence à réaliser l'opération, mais il n'y a personne qui vend en dessous du prix du marché pour faire plaisir à l'acquéreur. Et donc là, l'agent immobilier devra être très, 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 très vigilant. C'est la raison pour laquelle je vous conseille au niveau de vos fiches de, par exemple, noter quelle est l'évaluation que vous avez faite du bien et d'expliquer que cette évaluation, en tout cas le prix du mandat, est conforme à l'évaluation que vous avez faite, à un petit cheval près. Mais en tout cas, lorsqu'il y a de gros écarts entre l'évaluation du bien et le prix réellement proposé à la vente, ça doit vous alerter. Donc forcément, vous ne classerez pas ce client en client ne présentant pas de risque. Vous allez plutôt le classer en client présentant un certain risque, sauf à obtenir des justifications sur pourquoi je vends en dessous du prix du marché. Un autre point important, ce sont les clients qui ne se préoccupent pas de la rentabilité du bien. Un investisseur, normalement, lorsqu'il achète, hein, si c'est un investisseur sérieux, il va vous parler de taux de rendement, il va vous parler de taux de capitalisation, il va vous demander si ça se loue, à quel prix ça se loue, pour juger de sa rentabilité. Quelqu'un qui blanchit, tout ça, ça lui passe au-dessus de la tête, il n'en a strictement rien à faire, et donc ça doit vous alerter. Et également, dans le montage, un client qui fait trois sociétés pour acheter un bien, c'est possible. Trois sociétés pour acheter un studio à 80 000 euros, il va falloir creuser. Pourquoi on crée trois SCI pour acheter un bien plutôt modeste? Donc, ce sont des éléments à prendre en compte au moment de la découverte. Et vous voyez qu'à chaque question, il y a un certain nombre de réponses qui peuvent aller du risque faible au risque très élevé en fonction des réponses qu'on vous donne. C'est pour ça que je crois beaucoup, je dirais, à l'attitude du client. Lorsque le client est sur la méfiance, lorsqu'il est un petit peu réticent à se dévoiler, alors c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de subir un interrogatoire, hein, parce qu'on a des rendez-vous R1, R2 qui sont des fois assez costauds. Et donc, il va falloir lui expliquer pourquoi, hein, il faut faire beaucoup de pédagogie, pourquoi on récupère toutes ces informations. Ce n'est pas pour l'embêter, c'est simplement parce qu'on a des obligations par rapport à la loi, puis c'est aussi parce que notre vendeur, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si l'apport existe ou pas. Et donc, ça fait partie de notre découverte. La question se pose, est-ce que je dois dire dans ma découverte que je pose toutes ces questions par rapport à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme? Je ne suis pas certain qu'il faille le dire. On risque de braquer un petit peu le client. Hein, le client honnête, il ne va pas comprendre. Donc l'idée, c'est plutôt de l'amener à comprendre pourquoi on a besoin d'un certain nombre de documents, et plus sur le volet du financement. Et j'ai eu dans mon cabinet à traiter un jour un client qui avait une attitude très, 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 très défensive sur le financement. Et donc, il m'a dit, monsieur, le financement ne vous regarde pas. Alors, je lui ai dit, monsieur, je vais essayer de vous démontrer tout le contraire. Le financement me regarde d'abord parce que vous achetez un terrain à bâtir et donc vous allez faire des frais sur le terrain. Vous allez commencer à payer des frais d'architecte, des frais de géomètre, un constructeur. Et donc, vous allez commencer à dépenser de l'argent alors que vous n'êtes pas encore le propriétaire. Le terrain a cette particularité, c'est que l'acquéreur, il dépense un certain nombre de frais alors qu'il n'est pas encore le propriétaire. Et donc, pour que je puisse vous engager, il faut que je vérifie votre financement. Sinon, vous pourriez me faire le reproche de vous avoir engagé un petit peu de façon légère. Ça, c'est le premier point. Et je vous disais tout à l'heure que dans mon département, il s'écoule à peu près une année entre la signature du compromis et la signature de l'acte authentique. Donc, j'expliquais à cet acheteur que mon vendeur pourrait aussi me reprocher d'avoir été bloqué pendant 12 mois et de ne pas avoir vérifié le financement à minima de mon client. Et puis, comme il était sur la défensive, je lui ai dit, et puis monsieur, il y a quelque chose avec lequel je ne dérogerai pas, puisque je suis plutôt en fin de ma carrière, et que j'ai jamais eu de problème, c'est qu'il y a la loi sur la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme, et qu'à partir du moment où je vous explique tout ça, et que vous avez une attitude qui est défensive, vous commencez à m'inquiéter sur ce volet-là. Et donc je lui ai dit que à partir du moment où je n'obtiendrai aucun renseignement sur le financement, il ne sera pas possible de signer ensemble un compromis de vente parce que j'ai défendu mes vendeurs. Mes vendeurs n'habitaient pas sur place, ils voulaient que l'opération se passe bien. Et donc j'ai quasiment rompu la relation d'affaires. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire systématiquement, mais en tout cas, après avoir passé une heure à lui expliquer le bien fondé de ma demande, j'ai considéré que ce client présentait un risque. Et donc, nous n'avons pas traité et nous avons commercialisé le terrain avec une autre personne. À partir du moment où dans votre agence, vous aurez donc fait votre découverte au niveau du financement, par rapport au comportement du client, par rapport aussi à le secteur géographique où vous exercez, les professions qu'on a vues à risque, vous allez devoir faire donc un scoring pour l'aide à la décision. Et donc, dans ce scoring, vous allez faire une synthèse de manière à vérifier si votre client présente ou pas un risque. À partir du moment où vous aurez finalisé ce scoring, vous êtes en phase par rapport à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme. Vous trouverez deux exemples de scoring. Vous êtes libre de faire le scoring que vous voulez. Vous avez un premier scoring qui est basé essentiellement sur des chiffres. Vous voyez qu'au niveau du client, il a été noté en observation que ça comptait pour un tiers, l'activité et le secteur pour trois tiers. Ça, c'est la libre appréciation de l'agent immobilier. Et vous voyez qu'au niveau de la synthèse du risque, on est à 7 sur 15. Donc on a juste un risque au niveau de l'activité du secteur qui est élevé, tout le reste est faible. Donc ça ne justifie pas de faire une déclaration de soupçon sur ce client. Et puis vous avez une deuxième façon aussi de faire le scoring, c'est en tout cas cette façon que j'utilise dans mon cabinet, c'est plutôt avec des couleurs. Le risque faible est noté comme étant vert, le risque élevé est noté comme étant rouge. Hein, c'est un petit peu la même couleur que pour les feux tricolores. Et donc, ça vous permet d'un seul coup d'œil de vérifier si le client présente un risque ou pas. Dans le cas de ce client sur le tableau du dessous, vous voyez qu'il y a juste l'activité secteur qui présente un risque. Bon, ce n'est pas parce qu'on travaille dans le BTP qu'on est forcément un blanchisseur. Et donc, en fonction de ce scoring, je ne ferai pas de déclaration de soupçon, puisque le client a quasiment toutes les lignes ouvertes. Et donc, ça ne justifie pas, en tout cas à mes yeux, de faire une déclaration de soupçon. La législation, et en tout cas les publications qui sont faites, même si ça ne semble pas évident au premier abord, on n'a pas vocation à se transformer en enquêteur, hein, c'est simplement poser les bonnes questions. On a vu qu'il y avait du déclaratif, et très souvent ça sera du déclaratif. On a vu que pour certains clients qui présentent un risque, le déclaratif ne suffira pas, il faudra en tout cas un certain nombre d'éléments. Mais une chose doit être très claire dans vos esprits, c'est qu'on n'est pas enquêteur, on est simplement agent immobilier, on pose les bonnes questions, on fait notre découverte, on fait notre scoring, et dans la plupart des cas, nous déboucherons sur une clientèle qui ne présente pas de risque. Les cas de risque sont assez marginaux. On va devoir également adapter notre vigilance en fonction du risque. Donc si le client ne présente pas de risque, on aura une vigilance allégée. Si on s'aperçoit que le client présente un risque, on va devoir donc poser davantage de questions pour lever le doute que nous avons. À partir du moment où on a levé le doute, le client tombe dans la catégorie des clients ne présentant pas de risque. Si le doute n'est pas levé, si au fur et à mesure que nous posons des questions, on se rend compte qu'on n'obtient pas de réponse, là il y a donc deux éléments importants. D'abord, c'est le passage de relais du collaborateur à la hiérarchie, c'est-à-dire que le collaborateur ne peut plus s'occuper du client. Ça ne veut pas dire qu'il va le laisser tomber, mais il doit alerter les instances parce qu'on est manifestement peut-être devant un problème. Ça veut dire que les instances vont peut-être obtenir des renseignements que le négociateur n'a pas pu obtenir, hein, parce que des fois c'est plus facile pour le patron d'agence de les obtenir. À partir du moment où on obtient ces informations et qu'on lève le doute, le client rentrera dans la catégorie des clients qui sont non à risque. Et puis, si le client persiste, si on a le doute qui persiste, à ce moment-là, on va s'acheminer vers un client qui présente un risque et la hiérarchie devra donc faire une déclaration de soupçon et on verra dans quelles conditions plus tard. Pour résumer, le process est le suivant. Prise de contact avec le client, obligation de vigilance, je dois être sur mes gardes et je dois être vigilant. J'élabore une fiche d'identification sur les critères qu'on a vus ensemble, c'est-à-dire le profil du client, le financement, le secteur, etc. Des cadres que vous mettrez en place dans votre agence. Si j'ai l'impossibilité d'identifier le client ou le bénéficiaire effectif d'une société, je romps immédiatement la relation d'affaires. Je n'ai pas de doute quant au déroulé de la transaction. Je fais un suivi de la relation d'affaires qui est constant. Ma vigilance est constante et ça va m'amener donc à la signature de l'acte authentique. Fin de la transaction et j'archive tous les documents qui tentent à démontrer qu'il n'y a pas de problème dans un endroit sécurisé et je les conserve pendant 5 ans. Si par contre j'ai un doute au regard de la cartographie des risques que j'ai mise en place, à ce moment-là, il y a transmission de ce dossier à la hiérarchie. Le collaborateur doit informer son responsable en disant je meurs à telle et telle difficulté dans ce dossier. La hiérarchie va mettre en place des mesures de vigilance complémentaires, c'est-à-dire qu'on va demander davantage de documents, poser davantage de questions. Si le doute est levé, nous allons nous retrouver dans le cas numéro 1, c'est-à-dire vigilance constante jusqu'à la signature de l'acte authentique. Par contre, si le doute subsiste, là, on est peut-être devant un dossier qui pose un très gros problème. Et donc, nous allons le voir, la hiérarchie devra faire une déclaration de soupçon à Tracfin. Et on parle bien de déclaration de soupçon. On n'a pas de preuve, c'est un soupçon. Tracfin pourra s'opposer ou pas à la transaction. Ça, ce sont les personnes de Tracfin qui vous informeront sur le suivi de votre dossier. Et puis, bien évidemment, si Tracfin s'oppose, il n'y aura pas de transaction. Si Tracfin vous laisse continuer, il y aura donc la signature de l'acte authentique. Et bien évidemment, vous garderez les documents dans votre dossier. Et bien évidemment, à partir du moment où vous avez fait une déclaration de soupçon, bien évidemment, ça doit se trouver dans un secteur sécurisé, une armoire qui ferme à clé, dans un coffre, mais ça ne traîne pas dans le dossier. Et bien évidemment, la déclaration de soupçon, on ne la range pas dans les archives du dossier. C'est totalement à part et c'est strictement confidentiel, mais j'y reviendrai. Je vais m'adresser au patron d'agence. Ce que vous allez devoir mettre en place très rapidement, c'est de nommer le déclarant et de nommer le correspondant. C'est forcément des personnes qui sont les cadres dirigeants de l'entreprise ou les associés. En aucun cas, ça ne peut être, pour des petites structures en tout cas, du personnel salarié, négociateur, agent commercial. C'est forcément la hiérarchie qui s'occupe d'être déclarant et correspondant. Le déclarant, c'est celui qui va avoir en charge de faire la déclaration de soupçon, sachant que dans les petites structures, le déclarant et le correspondant, c'est la même personne. Si vous êtes dans une agence un petit peu plus structurée, on va imaginer deux associés. Un peut être le déclarant, c'est celui qui va faire la déclaration de soupçon, et le deuxième associé pourra être le correspondant. Le correspondant a deux missions. Il est un petit peu l'interface entre les services de TRACFIN et l'agence immobilière, et c'est celui aussi qui va porter la bonne parole dans l'agence et sensibiliser les collaborateurs sur les évolutions de la législation de manière à faire tourner l'information. Et bien évidemment, le déclarant et le correspondant doivent être portés à la connaissance des négociateurs, puisqu'il faut quand même que le négociateur, s'il a un problème, sache à qui en référer. Et bien évidemment, le négociateur ne pourra ni être le déclarant, ni être le correspondant. Je répète que c'est bien là les cadres dirigeants de l'entreprise qui occupent ces deux postes. Par contre, tous les négociateurs, et ça c'est une question qui est posée pendant les contrôles de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, c'est de poser cette question. Dites-moi dans votre agence qui est le déclarant, qui est le correspondant. Ça permet aux contrôleurs de vérifier si déjà les mots sont connus et si en plus les personnes sont réellement identifiées. Donc dans la salle de réunion, par exemple, si c'est une salle qui appartient à l'agence où il n'y a pas forcément de clientèle qui rentre, il peut être opportun de mettre une affiche en disant le déclarant c'est telle personne et le correspondant c'est telle personne. Comme ça, tout le monde est au courant. Qu'est-ce qu'on entend par soupçon? La définition du dictionnaire Larousse nous dit c'est une opinion défavorable à l'égard de quelqu'un, de son comportement. On retrouve bien le comportement tout à l'heure de l'analyse des risques, fondé sur des indices, des impressions, des intuitions, mais sans preuve précise. On dit également, en l'absence de connaissances certaines, puisqu'il n'y a pas de preuve, le soupçon est la conclusion à laquelle parvient un professionnel déclarant après avoir pris en compte tous les critères pertinents. Et donc on explique que la philosophie du système est de déclarer à TRACFIN toute opération anormale lorsque le doute ne peut être levé, même si les liens avec une activité illicite ne sont pas évidents à établir. Il n'est pas de nos ressorts de vérifier s'il y a un lien avec les activités illicites. Nous, la question qu'on doit se poser, est-ce que cette transaction ressemble aux transactions que j'ai l'habitude de faire dans cette agence, ou est-ce qu'il y a des indices qui me font penser que c'est une transaction qui est un petit peu différente? Alors à partir du moment où on a considéré que c'était une opération douteuse, comment se fait la déclaration de soupçon? Elle peut se faire de deux façons, soit en présentiel, et vous serez entendu par un agent de TRACFIN, soit sous forme Internet, avec une transmission par Internet, et les notaires et les banques qui font beaucoup de déclarations de soupçon utilisent une plateforme cryptée qui s'appelle Hermès. À partir du moment où un déclarant a pris la décision de faire une déclaration de soupçon, les services de TRACFIN sont là pour vous aider. Donc vous aurez un intervenant chez TRACFIN, ça sera toujours la même personne. Et bien évidemment, cette personne ne parlera qu'avec le déclarant qui a été nommé dans l'agence. Donc il y a que ces deux seules personnes qui seront au courant de la déclaration de soupçon. Une précision concernant le rôle du déclarant et du correspondant. Le déclarant, c'est celui qui va remplir la déclaration de soupçon. C'est celui qui va collationner les pièces et qui va expliquer à TRACFIN quels sont ses critères d'alerte, qu'est-ce qui fait que cette opération présente un problème. Et le correspondant, c'est celui qui va être l'interface entre les services de TRACFIN et l'agence. Et c'est celui qui sera sollicité par les services de TRACFIN, notamment pour récupérer et transmettre des pièces complémentaires. Donc le correspondant est au courant qu'il y a une déclaration de soupçon. Ce qui veut dire que dans nos structures où nous avons peu de personnel, les agences de petite dimension, je ne vois pas comment le correspondant et le déclarant peuvent être des personnes différentes. À mes yeux, c'est beaucoup plus cadré si c'est la même personne, parce qu'on est vraiment dans le concept de la confidentialité. À partir du moment où on met deux personnes, à mes yeux, c'est deux gérants, c'est deux co-gérants, c'est deux associés, mais c'est des personnes, en tout cas, qui se font confiance. Parce que forcément, le correspondant sera au courant qu'une déclaration de soupçon a été faite pour tel ou tel individu. À partir du moment où le déclarant fera sa déclaration de soupçon, vous serez amené de donner au service de TRACFIN un certain nombre d'éléments qui peuvent être le compromis, qui peuvent être la justificative des revenus, tous les éléments importants qui ont fait que dans votre cartographie des risques, vous avez pensé qu'il y avait un soupçon. TRACFIN donc va nommer une personne qui sera votre correspondant auprès des services de TRACFIN, et donc le correspondant de TRACFIN se mettra en lien avec le déclarant et ou le correspondant de l'agence, et il n'y a que ces trois personnes qui seront au courant au maximum du fait de l'existence de la déclaration de soupçon. Donc je vous rappelle le formalisme de la déclaration de soupçon. Vous faites votre déclaration soit en présentiel, soit par Internet, en remplissant un document, ça ressemble à un document PDF. TRACFIN va vérifier les conditions de recevabilité, et si le formalisme n'est pas respecté, vous recevrez une lettre vous invitant à régulariser votre déclaration de soupçon. Vous avez un mois pour respecter le formalisme. Si vous avez respecté le formalisme, vous avez donc une intégration de la déclaration de soupçon parce que vous l'avez régularisée et vous avez une exonération de responsabilité. On ne pourra jamais venir vous inquiéter, vous rechercher sur cette opération qui tente à démontrer qu'il y a une opération de blanchiment. Par contre, si vous ne régularisez pas dans le délai des un mois, la décision sera classée comme étant irrecevable. Et là, vous n'avez pas d'exonération de responsabilité. C'est comme si vous n'aviez rien fait. D'où l'importance de respecter à la lettre, puisque tout ça est encadré par des textes, à la lettre, la procédure qui est donnée par la législation et par les services de TRACFIN. Donc nous allons aborder maintenant un chapitre un peu pénible qui concerne les sanctions. Voilà. Bien évidemment, pour ceux qui n'auront pas mis en place le dispositif, qui n'auront jamais trouvé le temps de le faire, comment ça va se passer? La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui est déjà, chez certains, intervenue pour vous contrôler. Alors vous avez vu qu'au niveau du contrôle, c'est toujours un petit peu stressant. Hein, on préfère qu'ils aillent chez les autres. Ces contrôleurs qui seront amenés à vous contrôler, comment ça fonctionne? Ils vont probablement prendre une rue et faire au petit bonheur la chance. Ce qui va les inciter à rentrer dans votre agence, c'est un panneau d'affichage des honoraires qui est par terre, c'est un DPE qui n'est pas visible. C'est le fameux DPE qu'on voit souvent dans les agences en cours. Et donc le contrôleur va être amené à rentrer dans l'agence. Et l'État a demandé au contrôleur d'être plutôt sur le volet lutte anti-blanchissement et financement du terrorisme plutôt que sur le registre des mandats. Ça, c'est les instructions qu'ils ont. Donc il y a toujours un petit peu de stress. Donc bien évidemment, au niveau du contrôle, c'est mieux si le responsable est là. Donc on pourra très bien dire qu'au niveau des documents, tout n'est pas à disposition du personnel. Par contre, sur le volet lutte anti-blanchiment, là, vous devez tout avoir à disposition. On peut considérer que le registre des mandats est dans le bureau du directeur, fermé à clé, ou qu'on n'a pas accès à l'informatique, parce que le responsable veut vérifier tout ça. Par contre, tout ce qui concerne la lutte anti-blanchiment, l'information doit tourner dans l'agence, donc les contrôleurs pourront questionner un par un les personnes. Donc généralement, ils vont vous demander votre carte de collaborateur, et puis ensuite, ils vont vous dire, voilà, bah, écoutez, en attendant que le responsable arrive, parlez-moi de la lutte anti-blanchiment, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que l'agence a mis en place? Qui est le déclarant? Qui est le correspondant? Est-ce que vous connaissez son nom? Voilà. Et donc vous serez obligé d'expliquer, et en tout cas de tenir une conversation sur un peu plus d'une minute. Ça, c'est la première partie. Si au niveau du contrôle, le process a été mis en place, si au niveau des dossiers, vous avez bien vos pièces d'identité, les fiches ont été remplies, et que vous avez classé vos dossiers parce que vous concluez à ce qu'il n'y a pas de risque, le contrôle va bien se passer. Par contre, si rien n'est fait, ou si c'est mal fait, ou tout n'est pas fait, qu'est-ce qui va se passer? La répression des fraudes, en tout cas le contrôleur, va faire un rapport, et il va envoyer ce rapport à la Commission nationale des sanctions. Alors la Commission nationale des sanctions, si vous voulez, c'est un petit peu le tribunal. La police, c'est la répression des fraudes, et le tribunal, c'est la Commission nationale des sanctions, qui, elle, va sanctionner toutes les professions qui ne sont pas des professions financières. Donc elle ne s'occupe pas des banques, et toutes les professions qui ne sont pas organisées en ordre. Donc ils vont sanctionner les agents immobiliers, les directeurs de champs de course, les vendeurs d'art, etc. Et donc cette commission va récupérer le rapport de la répression des fraudes, qui sera étayé sur tous vos manquements par rapport à la législation, et vous serez systématiquement audité par la Commission nationale des sanctions, où il y a tout un tas de représentants, notamment des représentants de l'État, et vous allez donc expliquer pourquoi vous n'avez pas fait le nécessaire, quelles étaient vos difficultés. Et donc il faut savoir que depuis 2015, la Commission nationale des sanctions est très 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 stricte, puisque nous sommes rentrés dans le dispositif en 1998, et donc il est temps de se conformer à cette législation. Alors il y a tout un éventail de sanctions qui vont du blâme à l'avertissement, à l'interdiction d'exercer, son activité pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il y a tout un éventail, et il y a bien évidemment une sanction pécuniaire qui peut aller jusqu'à 5 millions d'euros, donc vous voyez qu'ils ont quand même de la marge. Et à partir du moment où vous êtes passé devant cette commission, vous aurez une publication dans des journaux de manière à montrer que vous n'avez pas respecté la législation. Alors jusqu'à maintenant, au niveau des publications judiciaires, ils ne mettaient pas le nom de l'agence, mais ils la mettent de plus en plus, donc vous aurez une petite publicité de notoriété dans un journal qui est souvent des journaux très diffusés, le Midi Libre par exemple. Et donc c'est toujours embêtant d'avoir son nom associé à un manquement à la législation. Je rappelle que les agents commerciaux, puisque sont considérés par la Commission nationale de sanctions comme des travailleurs indépendants, ils sont leurs propres patrons, seront également convoqués devant cette commission. Et pour avoir rencontré des agents immobiliers qui ont été convoqués devant la Commission nationale des sanctions, ils m'ont tous dit à l'unanimité qu'ils ont passé un très 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 mauvais moment. Voilà. Le but pour ne pas y aller, c'est de respecter le process. Donc à titre d'exemple, une agence a été condamnée parce qu'elle n'avait pas mis en place le dispositif, donc c'est un premier grief. Elle n'avait pas fait tourner l'information et former son personnel, deuxième grief. Elle n'avait pas les pièces d'identité de ses clients, en tout cas pas toutes, troisième grief. Et donc tous ces griefs ont conduit la Commission nationale de sanctions à prendre une amende à l'encontre de l'agence de 30 000 euros. Donc ce sont des amendes qui sont relativement fortes, et puis une suspension de 6 mois s'il y avait récidive sur ce sujet, donc avec un retrait provisoire de la carte professionnelle, ce qu'on appelle avec sursis. Si l'agence se refait contrôler et qu'il y a à nouveau des manquements, le sursis tombera et donc l'agence pendant 6 mois ne pourra plus fonctionner. Donc ce sont des sanctions qui sont très 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 sévères. Le but, c'est de nous faire rentrer dans le cadre, c'est clair et net. L'idée de la Commission nationale des sanctions, c'est de dire, depuis 1998, vous avez eu le temps de vous mettre en place, le temps a passé, les attentats de 2015 ont fait qu'il y a eu une pression sur les États, et donc maintenant, fin de la récréation, fin de la partie, il faut y aller, et le plus vite possible. Alors, indépendamment de sa vocation de donner la sanction, la Commission nationale de sanctions, chaque année, fait une publication. Et elle explique un petit peu tous les problèmes qu'elle a rencontrés, notamment sur le secteur de l'immobilier. Donc ça permet de mettre en évidence nos faiblesses et nos forces. Par exemple, la Commission nationale de sanctions salue notre implication, qui est un petit peu plus poussée qu'à une certaine époque. Donc ils se rendent compte que nous faisons des efforts, mais peut mieux faire. En clair, c'est ça. On a pris la mesure de cette législation, mais on a encore un petit peu de retard à l'allumage. Et donc c'est clairement indiqué dans les rapports. Il est également indiqué que dans l'immobilier de luxe, je dirais qu'il n'y a pas assez de déclarations de soupçons eu égard au nombre de transactions dans l'immobilier de luxe. Ce qui fait que ça fait chuter la moyenne, puisqu'on disait que 500 000 euros, c'est à peu près 70% des dossiers de Tracfin, parce que justement l'immobilier de luxe est en carence par rapport aux déclarations de soupçons. Donc nous allons étudier un exemple de blanchiment qui a fait l'objet de publications. Donc dans les publications de Tracfin, vous avez un certain nombre de cas qui ont touché l'immobilier, de manière à ce que l'agent immobilier puisse les lire et se dire « Tiens, effectivement, je vais réajuster les questions, le questionnement, ma fiche découverte client, et je vais donc vous la commenter. » Les faits. Madame X prend attache auprès d'une agence immobilière pour acquérir un bien immobilier d'une valeur manifestement surévaluée. Je vous indiquais que l'évaluation d'un bien est un élément important. À la suite de la visite du bien, Madame X fait une proposition d'achat égale au prix de vente. Pour financer cet achat, elle indique ne pas recourir à un prêt. Donc on est face à un client qui a un paiement comptant. Elle précise également que les fonds proviendront d'un compte d'une société située dans un pays à fiscalité privilégiée. L'agence, qui fait correctement son boulot, demande à Madame X des justificatifs d'identité, des justificatifs de revenus, ainsi que des indications probantes sur l'origine des fonds. Madame X répond qu'elle les communiquera ultérieurement. Donc on voit bien qu'on a plusieurs problèmes. On a le problème de la personne qui ne fait pas de prêt. Elle ne nous donne pas beaucoup d'indications sur le financement. Lorsqu'on lui demande des documents, elle a plutôt une attitude un peu défensive, puisqu'elle dit « on les communiquera un petit peu plus tard ». Et donc, il y a une déclaration de soupçon qui est faite. Et donc les critères d'alerte qui ont été notés dans tout le dispositif par rapport aux questions qui ont été posées, les critères d'alerte, quels sont-ils? Donc absence de recours à un prêt sans précision des modalités de financement. Donc on a un client qui est tout à fait opaque sur la façon de financer. Et c'est important parce que c'est un paiement comptant. Donc il faut qu'elle justifie de son apport personnel. On a également un deuxième critère qui est la surévaluation du bien immobilier. Et j'indiquais que la surévaluation d'un bien immobilier, c'est un critère d'alerte important. Et puis, quelque chose sur le comportement. Moi, je crois beaucoup au comportement. On a une certaine, je dirais, une certaine expérience. On a de l'intuition. Réticence de l'acheteuse à produire les justificatifs demandés. Si vous n'avez rien à vous reprocher, à partir du moment où l'agent immobilier explique pourquoi il a besoin de ces documents, il n'y a aucune raison que le client ne donne pas les documents. Donc réticence de l'acheteuse à produire les justificatifs demandés et intermédiation d'un compte situé dans un pays à fiscalité privilégiée. C'est-à-dire que l'argent va arriver d'un compte qui est issu d'un pays dans lequel la législation n'est pas tout à fait la même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Suite à la déclaration de soupçon, il y a une enquête des services de TRACFIN et donc TRACFIN va diligenter énormément d'enquêtes et donc on se rend compte que Madame X est mère de 5 enfants. Elle a un compte bancaire avec des dépôts fréquents d'espèces. Elle a des virements qui viennent d'un pays qui est inscrit sur la liste noire des pays non coopératifs. Madame X est non imposable à l'impôt sur le revenu. Elle n'est pas redevable de la taxe foncière ni de la taxe d'habitation. Elle n'a été bénéficiaire d'aucune donation. Donc Madame X n'a jamais justifié son activité professionnelle. Elle n'avait pas de dernier emploi connu. Par conséquent, l'apport personnel de Madame X ne peut être justifié ni par ses revenus ni par son patrimoine. Il est soupçonné que Madame X réalise cette opération pour le compte d'une tierce personne dont les investigations de TRACFIN révéleront qu'il s'agit d'un ressortissant français qui a fait l'objet de poursuites judiciaires pour extorsion de fonds et escroquerie en bande organisée. Donc, vous voyez l'intérêt pour l'agent immobilier de poser les questions parce que là, c'est une alerte des services de TRACFIN sur une déclaration de soupçon d'agent immobilier. Nous allons voir un deuxième cas qui a été noté par les services de TRACFIN. En 2013, le compte bancaire de M. Y, 23 ans sans profession, a été crédité de plusieurs dépôts en espèces et de virements d'une société immatriculée en France. Alors, ça, bien évidemment, ce n'est pas l'agent immobilier qui peut s'en rendre compte, c'est probablement une déclaration de soupçon qui a été faite par la banque. Ce compte était alors peu actif. Il faut savoir que pour une banque, un compte qui est peu actif et qui d'un coup se met à mouvementer, c'est un critère d'alerte bancaire. En l'espace de 4 mois, il affiche un solde de plus de 350 000 euros. Pour expliquer ses mouvements, M. Y indique qu'il est sur le point d'acheter un bien immobilier pour l'acquisition duquel il a fait appel à un professionnel de l'immobilier. Donc il faut se rendre compte des critères d'alerte de la banque. La personne a 23 ans, elle n'a pas de profession, le compte il est quasiment toujours à zéro et peu actif, et d'un coup, 350 000 euros sur le compte en banque. Le compte bancaire fait apparaître un flux de 3300 euros vers le compte d'une étude notariale, suivi quelques semaines plus tard de plusieurs versements fractionnés du solde. Donc là, on est tout à fait dans « je noie le poisson dans l'eau ». Le client, l'acquéreur, fait un premier versement, ça doit être le dépôt de garantie probablement, et puis il a l'air de fractionner le prix d'acquisition, ce qui est une démarche somme toute assez bizarre. Le compromis de vente contenait une clause de substitution permettant à M. Y de transférer l'ensemble des droits de propriété à une tierce personne, clause exercée le jour de la signature de la vente. Et ça, j'y reviendrai tout de suite après. La clause de substitution peut poser éventuellement problème. Donc, le notaire et le professionnel de l'immobilier n'ont pas fait de déclaration de soupçon. C'est simplement la banque qui s'est rendue compte de tout ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais on ne pouvait pas savoir ce qui se passait sur le compte en banque. Effectivement, vous avez raison, ce n'est pas de notre ressort. Mais on dit que le banquier dit qu'il y a une inadéquation entre les revenus de M. Dupont et la valeur du bien immobilier. Ça, je pense que l'agent immobilier peut s'en rendre compte. 23 ans sans profession, acheter un bien de 350 000 euros, ça nécessite quand même des explications sur le financement. Deuxièmement, l'alimentation par dépôt d'espèces et par virement en provenance d'une société sans lien économique, ça, c'est le banquier qui s'en est rendu compte, nous, on ne peut pas le voir. Mais on nous dit introduction d'une clause de substitution lors de l'achat du bien immobilier. Et ça, ça pose problème, parce qu'effectivement, la possibilité qu'une tierce personne achète à la place de notre client peut poser un souci. Alors, je sais que dans nos compromis, cette clause de substitution, elle est systématique. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il y a beaucoup de notaires qui maintenant ne la mettent plus. En tout cas, il faut en faire la demande. Donc, lorsque j'ai eu connaissance de cet exemple, j'ai essayé de regarder dans ma clientèle, et là je vous parle de mon cabinet avec ma propre hiérarchie de risques, j'ai regardé dans mon cabinet si j'utilisais très souvent cette clause de substitution. Et donc, je me suis rendu compte que ma clientèle de particuliers l'utilisait très, très rarement. Le cas le plus parlant, c'est la famille recomposée qui va faire une SCI pour son acquisition. Et puis, j'ai un volet de ma clientèle qui sont des promoteurs pour des terrains de promotion. Et là, effectivement, ils utilisent la clause de substitution. Donc, j'ai une partie professionnelle qui l'utilise et une partie d'acheteurs qui quasiment ne l'utilisent pas. Et donc, j'ai décidé dans mon cabinet, parce que dans mon cabinet, je fais ce que je veux dans le respect de la loi, que la clause de substitution, parce que je ne l'utilisais pas puisqu'elle peut poser problème, hein, on le voit dans cet exemple, je l'ai systématiquement supprimée de mes compromis. Ça veut dire que par défaut, elle n'y est pas. Ça veut dire que dans la découverte que je vais faire avec mes acheteurs, je vais leur dire attention, est-ce que vous êtes certain d'acheter monsieur et madame Dupont? Parce que si vous achetez SCI Dupont, il va falloir que je réajoute cette clause dans mon compromis. Donc vous voyez que vous pouvez l'adapter par rapport à cette législation à votre fonctionnement. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement supprimer cette clause de substitution, parce qu'il y en a qui l'utilisent quasiment tout le temps. Mais en tout cas, moi, dans mon agence, c'est une clause qui n'est plus systématique. Je fais ma découverte et si le client en a besoin, je la rajoute. Voilà. Donc par défaut, elle n'y est plus. J'avais posé la question à un avocat qui m'avait dit, tu dois identifier la personne qui signe le compromis, celle que tu as en face de toi qui signe le compromis. Ensuite, si la clause de substitution, elle est mise en jeu par la personne qui a signé le compromis, ça sera du ressort du notaire de vérifier l'identité de la personne qui profitera de cette clause de substitution. Mais tout ça me semble assez compliqué à mettre en place, et donc dans un souci de tranquillité, parce que j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai décidé de ne plus la mettre dans la découverte. On voit avec le client si on la rajoute ou pas. Et comme ça, j'ai déjà plus ce souci-là. Après, sur la partie promotion, puisque là, elle continue dans les promesses, hein, puisque lorsque vous travaillez avec un promoteur, c'est jamais le promoteur qui achète, hein, c'est la SCI qui l'aura constituée pour l'acquisition, pour faire l'immeuble qui signera l'acte authentique. Là, bien évidemment, elle reste et elle perdure. Mais j'ai expliqué dans mon process que ces promoteurs étaient des promoteurs nationaux, souvent adossés à une banque française, donc dans ma clientèle. Ce sont des promoteurs qui ne présentent pas de risque. Je vous propose maintenant de faire un exercice par rapport à un cas de blanchiment dans l'immobilier. Et c'est un cas réel, c'est quelque chose qui est arrivé à une agence immobilière. Et vous allez voir que c'est un exemple qui pourrait nous arriver à tous. Monsieur X souhaite vous mandater pour la vente de deux maisons construites très récemment par demande de sa famille. Lors de la découverte client, vous apprenez que Monsieur X, le mandant, c'est celui qui se présente comme étant le représentant de la famille, Monsieur Y et Monsieur Z, les propriétaires, sont issus de la même famille. Les propriétaires, Y et Z, n'habitent pas les maisons, ils ne sont pas sur place. Ils chargent Monsieur X, le mandant, de les représenter pour la mise en place du dossier de commercialisation. Vous ne pouvez donc pas rencontrer physiquement les propriétaires pour faire signer les deux mandats. On va se mettre dans le cas d'école où on n'a pas une agence qui a la signature électronique, parce que bien évidemment, sinon, ça ne fonctionnerait pas. Donc, il est encore au mandat papier, et donc, il ne peut pas les rencontrer. Et donc, ce que je vous demande, c'est de lister les deux vérifications les plus importantes à faire et les documents essentiels à récupérer. Bien évidemment, dans une vente, dans un dossier de commercialisation, il y a beaucoup de documents qui sont importants. Mais là, on va s'attacher à récupérer les documents qui vous semblent essentiels. Concernant le membre de la famille qui sera votre contact, puisque c'est celui qui représente la famille, concernant les propriétaires et concernant les deux maisons. Hein, donc, quels sont les documents essentiels pour celui qui se présente comme étant le mandataire, les papiers concernant les propriétaires et concernant les deux maisons. Vous décidez de préparer un mandat pour chaque propriétaire et de les confier à ce membre de la famille pour qu'il se charge de les faire signer, car il va rencontrer très prochainement les membres de sa famille qui sont propriétaires. Et ce que je vous demande, c'est quelle est la vérification essentielle à faire sur vos deux mandats dès que vous allez les récupérer. Donc, par rapport à la correction de cet exercice, concernant le membre de la famille, donc bien évidemment la carte nationale d'identité, le passeport ou la carte de séjour, ça c'est acquis et ce sont des fondamentaux. Et puis bien sûr la procuration, s'ils l'ont, qui a été signée par les propriétaires afin de vérifier l'étendue des pouvoirs qu'on a confiés au mandant. Donc c'est important de savoir à quel titre cette personne intervient dans la famille. Concernant les propriétaires, réel propriétaire du bien, même chose, carte nationale d'identité, passeport ou carte de séjour, et puis bien évidemment le titre de propriété du terrain. Et comme on nous dit dans l'énoncé que ce sont deux maisons récentes qui ont été construites récemment, il y a bien évidemment des documents qui sont attachés au bien, et donc les copies du permis de construire, tout ce qui est déclaration d'achèvement de travaux et de conformité, et bien évidemment l'assurance dommage ouvrage, hein, qui est une assurance importante et obligatoire. Donc ça, ce sont les documents qui sont à mes yeux essentiels pour commencer, je dirais, à travailler le bien. Et par contre, la vérification qui est très 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 importante au retour des deux mandats, puisque je vous expliquais que c'est une agence qui travaille avec des mandats papier, donc elle a envoyé ça soit par courrier, soit elle les a remis au mandataire qui est le membre de la famille. Ce qui est important, c'est dès le retour des mandats de vérifier la signature par rapport aux pièces d'identité. Ça, c'est un élément important pour vérifier qui a signé le mandat. Vous avez vu que les notaires sont beaucoup plus scrupuleux sur les recommandés avec accusé de réception au niveau du délai de rétractation. Les signatures sont passées à la moulinette pour vérifier que ce ne soit pas madame qui a signé pour elle et pour son conjoint ou pour son mari. Donc, je vous propose de vous commenter cet exemple qui a servi d'exercice avec ce que Tracfin, dans ce dossier, a découvert. Donc, on est dans le cas de présomption de blanchiment dans le secteur de l'immobilier. Alors, on rappelle les faits, puisqu'à chaque fois, Tracfin nous explique ce qui s'est passé. L'attention du service a été appelée par la déclaration d'un professionnel de l'immobilier. Donc, c'est intéressant parce que c'est une agence et il est tout seul. Pas un notaire, pas une banque, simplement un agent immobilier qui ne parvenait pas à identifier l'identité des propriétaires respectifs de deux pavillons récemment construits et mis en vente par l'intermédiaire d'un mandant appartement à la même famille que lesdits propriétaires. Les soupçons étaient renforcés par l'absence de documents administratifs. Donc en fait, l'agent immobilier, c'est parce qu'il demande des documents administratifs, notamment permis de construire, assurance dommage ouvrage, qu'il a des soupçons. Parce que le fait qu'il y ait un représentant de la famille, je pense que jusque-là, ça ne présente pas réellement de problème. Et un élément important, c'est que ce représentant de la famille lui dit, mais de toute façon, ne vous cassez pas la tête pour tout ce qui concerne les documents administratifs, je vais vous les donner, puis d'ailleurs, je peux même vous en obtenir défaut. Sous-entendu, on n'en a pas, mais on fera les documents qui vont bien pour que vous puissiez, je dirais, continuer votre transaction. Donc voilà, c'est le fait de pouvoir obtenir défaut qui met la puce à l'oreille à l'agent immobilier. Alors, bien évidemment, il fait une déclaration de soupçon. Et ce qui est important, c'est les critères d'alerte. C'est comment l'agent immobilier, à un moment donné, se dit, cette affaire, elle ne se passe pas comme d'habitude. Il y a des éléments qui me font craindre une opération de blanchiment. Mandat de vente présenté par un tiers non propriétaire des biens. Et l'essentiel, je dirais, de son soupçon, c'est que les mandats sont paraphés par la même personne alors que les propriétaires sont différents. Autrement dit, les mandats n'ont jamais été signés par les réels propriétaires. Et comment il s'en aperçoit, puisqu'il a les pièces d'identité, il a la signature, et c'est en comparant la signature sur les pièces d'identité et les signatures sur le mandat qu'il se rend compte que c'est la même signature. Donc c'est probablement le mandant qui a signé pour le compte de la famille. Absence de présentation de divers documents, notamment les documents administratifs, et donc il explique dans sa déclaration de soupçon qu'il n'a pas de garantie décennale, qu'il n'a pas de document concernant le permis de construire, et que d'ailleurs, on lui propose de faire défaut si ça peut arranger l'opération. Et également, un troisième critère qui est le profil incohérent au regard du patrimoine immobilier détenu, puisque l'agent immobilier a un doute par rapport à ces maisons. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces maisons, au niveau du prix de vente, et l'enquête va le démontrer, les services de Tracfin nous disent. Ces personnes n'ont pas de profession connue, ne déclarent pas d'activité, rémunérées auprès de l'administration fiscale depuis de nombreuses années. Les deux personnes physiques propriétaires des biens ont été en mesure d'acquérir un terrain, d'y faire construire rapidement des pavillons, sans qu'on sache réellement quelle est leur activité. Bien évidemment, l'enquête a débouché sur, je dirais, le contrôle des comptes bancaires. L'examen des données bancaires des propriétaires et du mandant a permis de confirmer le caractère limité de leur surface financière. Donc, vous voyez, on revient toujours à la partie financière. Ils n'ont pas la surface financière pour acheter de terrain et construire des pavillons. Les services de Tracfin ont sollicité également une aide auprès des services du cadastre et pour essayer de comprendre un petit peu comment les choses s'étaient passées. Et donc, la coopération entre Tracfin et les services du cadastre ont permis de démontrer que la mise en vente du premier bien immobilier pour un montant de 300 000 euros. Donc on est dans une transaction sur un montant relativement faible. Était proposée non pas par le propriétaire du terrain, mais par sa fille, et la dévolution successorale, c'est-à-dire la succession de la propriétaire décédée au moment de la mise en vente, n'avait pas eu lieu. Enfin, il n'y avait eu aucun permis de construire aux déclarations de travaux. Donc vous voyez, c'est le fait de questionner sur le permis de construire qui a mis la puce à l'oreille de l'agent immobilier sur, je dirais, les problèmes de cette transaction. Donc pas de déclaration de travaux, pas de permis de construire, donc le cadastre en atteste. L'immeuble étant ainsi construit en toute illégalité, l'analyse des données disponibles liées au second bien immobilier, puisqu'il y avait deux pavillons, qui a été mise en vente au prix de 100 000 euros, donc une somme encore moindre que le premier pavillon, a permis de constater qu'il provenait d'un terrain ayant fait l'objet d'un allotissement, donc c'est une petite opération d'urbanisme. Et donc, les investigations du service ont mis à jour l'existence d'un mode opératoire orchestré par les membres d'une même famille, sans ressources financières déclarées, constituant l'acquisition d'un terrain suivi de la construction d'un pavillon, selon des modalités de financement inconnues et mises en vente dans des conditions réglementaires incertaines. Voilà, c'est ces faisceaux de soupçons. Hein. Il n'y a pas de preuves, parce que l'agent immobilier n'a pas de preuves, c'est les enquêtes ensuite qui vont être diligentées, qui vont apporter ces preuves, mais l'agent immobilier se dit, c'est bizarre, on me propose des faux pour le permis, on me propose des faux pour la dommage ouvrage, la surface financière me paraît un petit peu bizarre, en tout cas pas une surface financière suffisante pour construire ces pavillons. Et donc la déclaration de soupçon a été faite, et c'est le premier exemple où l'agent immobilier, en tout cas c'est un des premiers exemples où l'agent immobilier est seul par rapport à ça, et le fait que la même signature soit sur les deux mandats, alors que les deux mandats étaient à des noms différents, puisque des propriétaires différents, c'est dans ces critères d'alerte un élément important. Donc quand on cumule les faux, plus le fait que probablement le mandant a signé tous les mandataires sans même les montrer à sa famille, lui a mis la puce à l'oreille. Ensuite, il a fait sa déclaration de soupçon, ensuite les services de Tracfin lui ont dit ce qu'il fallait faire, et ensuite c'est du ressort des services de Tracfin, et en tout cas des services qui vont diligenter toutes les enquêtes dont Tracfin a besoin. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble comment anticiper le contrôle de la répression des fraudes. Je le disais, c'est un contrôle qui est toujours un petit peu stressant, et donc il faut se mettre en place avec un certain nombre de documents qui vont permettre aux contrôleurs très rapidement de se faire une idée, est-ce que vous respectez ou pas le dispositif. Donc au niveau des contrôles, par la répression des fraudes, comment ça se passe? Donc les contrôleurs prennent une rue et vont rentrer dans les agences, souvent sur la tenue de la vitrine, lorsqu'il manque des indications légales au niveau des annonces, ça les incite à rentrer. Une fois qu'ils sont rentrés dans l'agence, ils ont le droit de demander les cartes de collaborateurs, ils ont le droit de demander la carte professionnelle du responsable, ils ont le droit également de questionner le personnel qui est en contact avec la clientèle sur les obligations de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Donc les questions classiques, c'est qu'est-ce que vous savez de cette législation? Connaissez-vous le déclarant et le correspondant dans votre agence? Montrez-moi une fiche de découverte client. Quelles sont les questions que vous posez? Voilà, comme ça que se passe le contrôle. Ensuite, en fonction des contrôleurs, bon, il y en a qui sont plus ou moins sévères, certains vont vous demander de préparer les 5 derniers dossiers que vous avez et de les amener à leur bureau pour qu'ils puissent être étudiés. Puis d'autres contrôleurs vont dire non, sortez-moi les dossiers de suite, le contrôle se fait maintenant. Donc, vous voyez qu'on n'est pas tous égaux par rapport au contrôle. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est d'essayer de faire un... Alors moi j'appelle ça un classeur parce que le contrôle étant un petit peu stressant, j'ai pas envie d'avoir le contrôleur à côté de moi qui regarde mon ordinateur, donc je suis resté à la bonne vieille école qui est un classeur papier avec des intercalaires, et on va essayer de compléter ensemble ce classeur pour que le contrôle se passe de la meilleure façon possible. Donc j'ai fait un premier onglet que j'ai appelé clientèle, et dans cet onglet clientèle, j'ai mis l'analyse de ma clientèle, c'est-à-dire est-ce que mon analyse me démontre que ma clientèle est risquée. Donc j'ai analysé les 2-3 dernières années de mes clients et j'en arrive à la conclusion que ma clientèle, en tout cas dans mon cabinet, ne présente pas de risque. Donc on le sait tous, on connaît notre clientèle, sauf que là c'est écrit et je peux le présenter. Donc j'ai fait un petit récapitulatif où j'ai expliqué que cette clientèle ne présente pas de risque. Certains vont arriver à une conclusion qui va être que le risque de blanchiment est un risque moyen. Et d'autres vont arriver à la conclusion, le risque de blanchiment est un risque élevé. Donc chacun fait son analyse. Et j'ai mis dans ce premier onglet des exemples de fiches. On va trouver la fiche personne physique, la fiche personne morale, la fiche personne politiquement exposée. Je n'en ai pas eu dans mon cabinet, mais ça me permet de dire au contrôleur, vous voyez, je suis au courant qu'il y a des personnes avec lesquelles le niveau de vigilance doit augmenter, ce sont les personnes politiquement exposées. Donc toutes ces fiches, je les ai rassemblées, ça permet au contrôleur de voir que la découverte client, elle est faite sérieusement. Ensuite, j'ai fait un deuxième onglet, quels sont les sites internet à consulter? Il y a énormément de choses sur internet. Tout n'est pas de qualité, mais il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle les sources ouvertes. Et les sources ouvertes, c'est quoi? C'est taper sur internet, par exemple, le nom d'un client. Je me rappelle d'un agent immobilier qui était dans le Luberon, donc un secteur où les maisons ont de la valeur. Il avait reçu un client, c'était un samedi, il m'expliquait qu'il était en train de faire la comptabilité dans son agence. Le client est rentré et il a eu une impression désagréable de ce client. Et en tapant son nom sur son moteur de recherche, il a appris que ce client avait fait l'objet de condamnations pour trafic d'armes. Donc, et c'était en source ouverte. Donc vous voyez que ce client ne va pas être abordé de la même façon que monsieur et madame Dupont qui sont fonctionnaires à l'école publique. Donc cet onglet avec les sites à consulter sont importants. Donc j'y ai mis le site du GAFI pour montrer au contrôleur que je sais ce que c'est que le GAFI, même si je n'ai pas de clients issus de ces pays, mais en tout cas je connais le nom du GAFI. J'ai mis le registre des bénéficiaires effectifs de l'INPI avec ma demande de code d'accès pour pouvoir avoir un lien avec le registre des bénéficiaires effectifs pour les sociétés, hein, on l'a vu, ceux qui détiennent plus de 25% du capital. J'ai fait des captures d'écran du registre du gel des avoirs, j'y vais très rarement. Mais en attendant, je peux expliquer au contrôleur, je sais qu'il y a un gel des avoirs et je sais que lorsqu'on est sur ce registre, on n'a pas le droit de faire du commerce avec le client qui est mentionné. Et puis, je peux citer Google, Facebook, etc. Et vous pouvez en trouver d'autres par rapport à votre clientèle. Ensuite, j'ai fait un troisième sous-dossier qui est l'information collaborateur. La législation vous dit qu'il faut que vous formiez votre personnel, c'est la formation, mais il faut aussi que l'information soit continue. Donc là, dans ce sous-dossier information collaborateur, je vous propose de mettre le papier qui désigne le déclarant et le correspondant. Comme ça, en cas de contrôle, vous pourrez dire, ben oui, le classeur, il est pour tout le personnel. Et vous voyez, le déclarant et le correspondant a été nommé dans notre agence. On a d'ailleurs le document. J'ai mis également les lignes directrices de TRACFIN. Et je pense que ce document, c'est peut-être pas inintéressant de le faire signer par les collaborateurs. Puisque les lignes directrices, c'est un petit peu notre code de la route dans l'immobilier par rapport à cette législation. Donc je pense que c'est plutôt intéressant. Le document aussi, correspondant et déclarant, pourquoi ne pas le faire signer par les collaborateurs. J'ai mis également les alertes TRACFIN. Il y a tout un tas d'alertes. On a vu l'alerte sur l'Ukraine. Il y a eu une alerte il n'y a pas très très longtemps sur des gens qui usurpent l'identité de TRACFIN. TRACFIN ne viendra jamais dans vos agences. Donc ils nous ont créé une alerte. Ces alertes, je les collectionne. Ça me permettra de dire au contrôleur, vous voyez, je vais de temps en temps sur le site de TRACFIN et je récupère les alertes parce que si demain il y a une alerte qui correspond à ma clientèle, il vaut mieux que je le sache. Et puis vous avez une newsletter qui est intéressante qui s'appelle la newsletter spéciale immobilier. C'est la numéro 13 qui concerne que l'immobilier avec des exemples sur l'immobilier. Et ça, je pense également intéressant qu'elle soit signée par les collaborateurs. Ça va obliger d'abord les collaborateurs à le lire. Et puis, ils vont prendre la mesure de cette législation, comme quoi les accidents n'arrivent pas qu'aux autres. Un dossier formation, un sous-dossier formation. Et là, les attestations de formation sur ce sujet, vous pouvez les mettre. Ça montre au contrôleur que vous vous formez et que vos collaborateurs se forment également. Et puis, c'est un conseil pour ceux qui avaient l'habitude de faire des réunions commerciales. Pourquoi ne pas faire de temps en temps un ordre du jour un peu formel que vous envoyez à vos collaborateurs par mail? Et dans cet ordre du jour, je pense qu'il est intéressant de dire, voilà, aujourd'hui, il est sorti le rapport de TRACFIN, il est sorti le dernier rapport de la Commission nationale de sanctions. Eh bien, dans l'ordre du jour, on va en parler, et ça peut être le rôle du directeur d'agence, de commenter les grandes lignes de ces publications. Et à ce moment-là, dans l'ordre du jour, on va noter point numéro 1, rentrée de mandat, point numéro 2, les offres en cours, point numéro 3, où on en est des compromis et des signatures chez le notaire, et point numéro 4, commentaire sur une publication, parce qu'il y a des éléments importants. Ça permettra de justifier au contrôleur que non seulement on se forme, puisqu'il a vu les attestations de formation précédentes, mais en plus, on fait circuler l'information dans l'agence dès qu'il y a des publications nouvelles. Une précision concernant la location. La location est moins concernée par la lutte anti-blanchiment et plus par le financement du terrorisme. Pourquoi? Parce que les montants d'investissement dans la location sont déjà beaucoup plus faibles, donc ça ne va pas forcément intéresser un blanchisseur. Par contre, ça peut intéresser quelqu'un qui projetterait de faire un attentat. Donc on n'est plus sur le volet du terrorisme. Et donc la location, c'est la carte T qui régit la location. Faire un bail, préparer un bail, faire signer un bail, faire un état des lieux, ça répond à la carte transaction. Et donc le transactionnaire, à partir du moment où le montant du loyer dépasse 10 000 euros par mois, est concerné par cette législation. Par contre, le gestionnaire qui, lui, gère le bien, encaisse les loyers et qui a le droit de mettre un locataire en place lorsque le précédent locataire s'en va puisqu'il a un mandat de gestion, lui n'est pas concerné par la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme. Il y a juste le volet location du transactionnaire. Celui qui ne fait que encaisser les loyers, c'est la carte gestion. Même s'il remet dans les lieux un locataire, il n'est pas concerné, quel que soit le montant du loyer. Donc ça, c'est une précision importante. Alors, en matière, je dirais, de loyer, de location en tout cas, quels sont les critères, je dirais, d'alerte qu'on peut rencontrer? C'est très souvent la sous-location, où il va falloir être vigilant. On va faire signer le bail à monsieur et madame. Il faut que ce soit, sauf cas contraire, mais à ce moment-là, il faut que ce soit justifié, hein. On peut très bien concevoir de louer un appartement pour la scolarité de sa fille ou de son fils. Là, c'est justifié. Donc, il faudra toujours vérifier quelles sont les possibilités de sous-location. Et puis surtout, que la personne qui vient payer le loyer, c'est bien la personne qui a signé le bail. Et si, en tout cas, ça n'est pas la même, ce ne sont pas les mêmes personnes, pourquoi? On peut très bien concevoir que le locataire a des problèmes financiers et que c'est un membre de sa famille qui, momentanément, lui paye le loyer. Là, il y a un des justificatifs, il y a une justification en tout cas, et donc dans la colonne observation, on dira cette personne a des problèmes de santé, elle est aidée par la famille au niveau du paiement du loyer. Vous voyez, donc il y a peu, je dirais, de critères d'alerte, ça c'en est un. Donc on sera vigilant sur la sous-location, on sera vigilant sur le volet, je dirais, du paiement de loyer, que ce soit bien la personne qui a signé le bail qui paye le loyer. Et puis, il y a aussi souvent des alertes alors, qui proviennent des syndics lorsqu'il y a des va-et-vient dans un appartement, lorsqu'il y a du bruit, avec un courrier du syndic qui peut être envoyé au gestionnaire en rappelant un petit peu la législation, en tout cas le bon respect des règles du règlement de copropriété. Donc, vous voyez, il y a peu d'exemples. Hein, donc, on sera vigilant sur qui paye le loyer, est-ce qu'il y a de la sous-location en place, et être vigilant aussi. Si il se passe des choses qui perturbent un petit peu le voisinage, en tout cas la vie des gens dans la résidence, ça doit nous alerter. Et le gestionnaire, de mon point de vue, est fondé à aller faire peut-être une enquête sur place pour voir un petit peu ce qui se passe. Comment se fait-il que le syndic ait reçu des plaintes des voisins en faisant une petite enquête de voisinage? Voilà, il y a peu d'exemples, en tout cas, concernant la location, puisque c'est assez nouveau dans le dispositif. Je remercie Vincent de nous rejoindre et je crois, Vincent, que tu avais quelques questions à me poser.
Déjà, bonjour Pascal, merci de m'accueillir dans ta formation. Très intéressante comme formation. Le blanchiment d'argent, tout ce qui est lié à Tracfin, c'est vraiment des choses qu'on imagine dans nos têtes. Et souvent, l'imagination qu'on a, c'est les films qu'on a vus quand on était gamin. Et donc, on voit le mec avec son gros cigare et son costard, la chemise ouverte comme ça et la mallette dans lequel il y a certainement de l'argent liquide. Est-ce qu'aujourd'hui ça se passe réellement comme ça? Et est-ce que c'est ces
Non,
gens-là qu'on doit identifier?
plus du tout. Aujourd'hui, les réseaux mafieux se sont énormément professionnalisés, donc on est très très loin de la valise de billets qui existait à une époque. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les virements sont devenus la règle par rapport au chèque, donc c'est aussi la législation qui change. Non, c'est plus du tout ça, et c'est pour ça que là, je dirais, l'agent immobilier doit rester en alerte. Le blanchisseur peut être rencontré au coin de la rue. Il faut savoir que les services de Tracfin nous disent que 70% des dossiers qu'ils traitent concernent des biens d'un montant inférieur à 500 000 euros. Donc ça veut bien dire que ça concerne la totalité de la France. Et il y a un exemple d'un cas de blanchiment où la valeur des biens, il y a deux biens, 100 000 et 300 000 euros. Donc ça concerne tous les professionnels, quel que soit le secteur géographique. Bien sûr, sur les secteurs plutôt haut de gamme, il est clair que ce sont des secteurs géographiques qui intéressent davantage les personnes qui souhaitent blanchir. Et donc les chiffres sont très mauvais, puisque les rapports dénoncent le manque d'implication de l'immobilier de luxe en matière de
D'accord.
déclaration de soupçons.
Mais justement, enfin, après ce que je comprends de tout ça, c'est que l'objectif de quelqu'un qui fait ce genre de choses, c'est clairement de passer sous le radar.
Oui.
Donc, ils ont tout intérêt à le faire sur des choses qui ne vont pas déclencher ni mettre la puce à l'oreille de qui que ce soit. Et justement, le qui que ce soit, la puce à l'oreille, est-ce que c'est vraiment à l'agent immobilier d'identifier ça à l'heure où il y a le notaire qui travaille déjà beaucoup plus proche de l'État, la banque dont c'est quasiment une partie du métier de faire ça? Pourquoi l'agent immobilier? Et est-ce que l'agent immobilier doit faire ce travail-là?
Alors l'agent immobilier doit le faire, il ne doit pas faire un travail d'enquêteur. En fait, la question fondamentale, c'est est-ce que cette opération se déroule dans des conditions normales? Est-ce qu'elle ressemble à toutes les transactions que j'ai eu l'habitude de faire? C'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser. Et nous sommes dans le dispositif parce que très souvent, le client va voir son agent immobilier avant d'aller voir le banquier ou avant d'aller voir le notaire. Donc l'agent immobilier peut se rendre compte d'un détail qui lui met un doute. Le notaire peut se rendre compte de tout à fait autre chose, et la banque également. Et c'est ces trois détails qui, mis bout à bout, peuvent constituer pour Tracfin un dossier intéressant.
Ok, donc l'idée c'est de se dire, travailler en équipe sur ce sujet-là, et plus il y a de gens qui peuvent émettre des soupçons au titre d'une personne, plus il y a de chances d'éviter des soucis comme l'évasion fiscale, comme le terrorisme, ou comme le financement
Oui,
de
c'est-à-dire que
business occultes, quoi.
tous les acteurs sont responsables de cette législation, chacun à son niveau, hein, je le redis bien, il n'est pas dans nos attributions d'être la brigade financière, ni d'être des enquêteurs. On pose simplement les bonnes questions par rapport à ce qu'on a vu, et à partir du moment où on a fait un timing, où on a posé les bonnes questions, où on peut considérer que la clientèle ne représente pas de risque, à ce moment-là, l'agent immobilier a fait correctement son job. Et si la clientèle présente un risque, il suffit d'étayer, hein, c'est ce qu'on appelle les critères d'alerte. Hein. J'ai un critère d'alerte qui est que le profil de cette personne acquéreur est relativement jeune, qu'il n'a pas de revenus et qu'il fait un financement sans crédit. Donc d'où vient l'argent? Voilà, c'est ça la question
C'est
qu'il
vrai,
faut se
c'est la
poser.
plus grosse question
Voilà.
qui se
C'est le
pose.
financement, bien sûr, c'est le financement. Là où on doit faire des efforts, c'est sur le financement.
Et justement, je pense qu'il y a aussi une question de protéger le vendeur qui n'a pas forcément envie de vendre à un bandit. Il
Complètement?
y a de
Oui.
l'humain dans cette maison. Du coup, quand un mandat est signé, ça peut être directement avec le titulaire de la carte, mais ça arrive assez fréquemment dans l'immobilier à l'heure actuelle, que ce soit un agent commercial, que ce soit un négociateur, un conseiller, peu importe comment on les appelle, les mandataires qui signent sur la carte de l'agent
Ouais.
immobilier. À ce moment-là, c'est qui est responsable justement? C'est la personne qui est titulaire de la carte?
Alors, il y a un distinguo au niveau de l'échelle, je dirais, de répression, c'est-à-dire que le responsable, effectivement, c'est le titulaire de la carte professionnelle. Donc, c'est lui qui risquera l'amende, les poursuites pénales, etc. Et puis, par ricochet, la commission des sanctions va sanctionner également l'agence, la
Ok.
personne morale, de manière à bloquer aussi le fonctionnement de la personne morale. Et puis, il y a un enjeu important pour les agents commerciaux, c'est-à-dire les agents commerciaux indépendants. Hein, ce sont des travailleurs indépendants qui travaillent sous le couvercle de la carte professionnelle du directeur d'agence. Les agents commerciaux sont assimilés par rapport à cette législation comme des patrons. Et donc,
Ok.
l'agent commercial pourra, à ce titre, être également condamné dans des proportions moindres que le patron titulaire de la carte et l'agence, mais il répondra des manquements à cette législation. Donc l'agent commercial est assimilé à un patron.
Et justement, dans le cadre d'un réseau de mandataires,
Oui.
où il y en a de plus en plus, aujourd'hui, c'est le mandataire, il a une entreprise.
Oui.
Est-ce que son entreprise, elle peut être fermée? Parce que je sais qu'il y a une interdiction d'exercer
Oui, ça.
aussi
Pour
qui
les
peut
cas, oui,
tomber.
pour les cas les plus graves. Alors généralement, lorsqu'on se fait contrôler par la répression des fraudes sur le premier contrôle, il y aura une sanction pécuniaire, hein, la société, l'agent commercial, si c'est un agent commercial, la personne physique, le gérant de l'entreprise, et la condamnation de fermeture d'agence sera avec sursis.
Ok.
Ça, c'est le premier point. Ensuite, en cas de récidive, le sursis va tomber. Donc là, ça peut aller jusqu'à 6, 12 mois de fermeture d'agence. C'est des sanctions très, très lourdes. On est très, très loin des 1 500 euros d'amende pour le non-respect de la législation sur le DPE. On est sur des
Ok.
amendes très, 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 très fortes.
Et
Donc,
puis qui monte très vite si jamais il y a récidive, j'imagine.
complètement, complètement. Alors, il faut savoir que le plafond au niveau des amendes a été amené à 5 millions d'euros. Donc, aujourd'hui, on est à peu près à 30 000. d'amende. Donc ça veut dire qu'il y en a encore sous la pédale pour nous faire rentrer dans le rang. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que les seuls, alors qui ne risquent rien par rapport à la sanction qui a été mise en place par l'État, c'est le salarié. Lui, le salarié qui fait une erreur, oui. Il sera blâmé par son responsable. C'est à lui qui répondra devant la commission des sanctions.
Donc il y a un énorme intérêt quand même de la part du porteur de carte T, quel qu'il soit, que ce soit une entreprise ou que ce soit un manager d'agence dans une plus petite agence, de bien mettre en place les process pour éviter que le salarié, l'agent co ou le mandataire puissent même faire une erreur ou une bêtise, qu'il ait bien répondu aux questions concernant la surface financière qui est en adéquation avec comment il aurait pu gagner cet argent-là et sur l'identité de la personne.
C'est ça. Et en plus, dans le process, il y a des moments où on change de hiérarchie. C'est-à-dire, ça n'est plus le collaborateur qui s'en occupe. Il doit passer le relais à la hiérarchie. C'est fait exprès pour protéger un petit peu le...
Justement, à ce titre-là, il y a un moment dans ta conférence où tu dis que quand tu fais une déclaration de soupçon, tu ne dois pas forcément tenir informé tes collègues, et même il ne faut pas tenir informé tes collègues. C'est quelque chose, c'est interdit de le faire.
C'est interdit, oui.
Comment ça se passe justement dans le cadre où tu as un soupçon, tu vas voir ton manager, quand c'est tes collègues qui sont au même niveau, qui tu n'as pas le droit d'informer et qui tu dois informer à ce moment-là?
Mais en fait, c'est très simple. Le collaborateur qui se rend compte qu'il y a un souci, on a vu une attitude un peu défensive lorsqu'on pose des questions, un refus de donner des documents importants, lorsqu'il en réfère à son responsable, il doit lui donner le dossier et puis ensuite il doit oublier ce dossier, il doit laisser faire son patron et son patron n'a pas le droit de lui dire
ce qui s'est passé,
l'issue de ce dossier. Donc, ça peut poser des problèmes, hein. Je reconnais que dans une agence c'est pas évident, on n'est pas dans une banque, c'est souvent des sociétés familiales, hein. On s'entend tous, on se connaît depuis longtemps, effectivement ça peut poser un problème, donc le collaborateur doit laisser tomber ce dossier. Alors il faudra mettre en place commercialement pour pas que le client se sente un petit peu en porte-à-faux, hein, comme se dit que le négociateur s'occupe plus de moi, donc il faudra trouver un prétexte dans l'agence, mais on est monté parce que le risque augmente d'un niveau de hiérarchie.
Ok, donc à ce moment-là, il donne le dossier, il n'y a plus qu'une seule personne qui s'en occupe et ça doit rester entre guillemets secret défense.
Il faut bien comprendre que tout le process, il est aussi pour notre protection. Si on ne sait pas qu'on monte de niveau de hiérarchie, on risque peut-être de faire des bêtises. Donc le fait d'être à deux, à dire voilà, j'ai un souci par rapport à ce dossier, voilà le problème que j'ai identifié, maintenant à toi de jouer, ça permet aussi au patron de prendre un peu de recul, d'éventuellement téléphoner. Peut-être que les renseignements, le patron les obtiendra alors que le négociateur a eu plus de mal. Il y a tout ça.
Et puis il y a un moment où aussi c'est un niveau de responsabilité. C'est normal quand la responsabilité est trop grande, que ce soit une personne qui en a déjà plus au sein de la structure.
Parce que la responsabilité pénale peut être engagée. Donc c'est du sérieux.
Mettre l'entreprise en risque.
Tout à fait.
Si tu as un soupçon, il vaut mieux passer à l'étape suivante. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, pour un renouvellement de carte T, c'est pas obligatoire de se former, mais est-ce que la formation en elle-même, elle est obligatoire?
Alors, dans les formations de la loi Allure, hein, vous avez vu qu'on avait démarré avec la formation sur le code d'éthique et d'ontologie. Ils ont rajouté la non-discrimination, mais cette formation, elle est inscrite dans le marbre, non pas dans la loi Allure, mais elle est dans le code monétaire et financier, et elle est inscrite dans le marbre, dans la loi Auguet. Et il est dit que cette formation, elle est obligatoire et que l'information et la formation doit être continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne fais pas la formation, en tout cas aujourd'hui, en l'état des textes, j'aurai toujours mon renouvellement de carte professionnelle, puisqu'elle n'est pas liée au renouvellement de la carte. Par contre, on est en infraction par rapport à la législation qui est dans le code monétaire et financier. Et ça veut dire qu'on peut être réprimé parce qu'on ne s'est pas formé et qu'on n'a pas formé surtout ses collaborateurs.
C'est justement la question que j'allais poser.
Législation.
En fait, ce n'est pas lié à la carte T.
Non,
c'est même pas le sujet. C'est à partir du moment où tu travailles dans l'immobilier, quel que soit ton statut,
c'est ça,
et que tu es amené à traiter ce type d'affaires-là, c'est illégal de ne pas se former, sur ces sujets-là, parce qu'il y a un travail en commun à faire autour de...
C'est ça, c'est-à-dire que le législateur ne veut pas conditionner ça au renouvellement de la carte. Je dirais qu'à la limite, si on avait des cartes qui étaient valables 20 ans, on doit quand même se former sur cette législation. Il ne faut pas la ramener à la durée de validité de la carte.
Okay.
C'est un élément, c'est une grosse erreur qui est commise par beaucoup d'agences et de directeurs d'agences, c'est de penser que c'est facultatif. Non, c'est une formation obligatoire. Il suffit
surtout
de...
tous les collaborateurs...
Tous les collaborateurs, et puis une information qui doit circuler. C'est-à-dire se former, c'est bien, mais il faut après s'informer sur les sites de Tracfin, des publications, etc. Il faut continuer
sans, ça, c'est ce que tu dis justement,
son information.
Dans la formation, tu donnes les sources pour se renseigner. Bon, tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, il n'y a pas de sujet parce qu'ils viennent de finir la formation, ils sont à quelques minutes d'avoir leur attestation et de pouvoir prouver qu'ils sont formés. Mais maintenant, c'est important pour notre viralité, mais aussi parce que c'est légal qu'ils le fassent passer au maximum de gens qui travaillent avec eux pour que tout le monde soit en conformité avec cette règle, surtout s'il y a un problème derrière, au moins justifier qu'on a mis en place tous les éléments et qu'ils soient...
Oui, et puis cette formation, il faut qu'elle nous rende meilleurs sur la découverte. En fait, une formation où elle est subie et on souffre le martyr, où on se l'approprie et on devient meilleur. Dans mon cabinet, je l'ai mise en place pour devenir meilleur sur les questions du financement, d'avoir plus de justificatifs de l'apport personnel, voilà.
Parce que surtout, ça, c'est ce que c'est tu dis dans la formation, c'est qu'il y a un moment où, comme dans la non-discrimination, comme dans la déontologie, au final, c'est des processus que tu mets en place pour une raison qui est légale, mais la réalité, c'est que ça, aussi, ça apporte aussi de la valeur à ton client final, ne serait-ce que pouvoir justifier que la personne elle est solvable.
Bien sûr.
C'est, d'ailleurs, c'est une question que je me pose, c'est que j'ai toujours entendu dire que l'agent immobilier devait s'assurer que la personne elle était solvable, mais qu'elle n'avait pas vraiment le droit de le faire et que ce n'était pas tellement son rôle que de faire ça, alors que justement avec Tracfin, c'est quoi le vrai du faux dans tout ça?
Certains se servent d'ailleurs de la formation de Tracfin pour dire aux clients, les questions que je vous pose, elles sont obligatoires. J'ai besoin de vérifier avant de vous engager sur la signature du compromis. Le compromis, ce n'est pas anodin, hein. Ça engage l'acquéreur, ça engage le vendeur, il va bloquer son bien pendant un certain laps de temps, donc il est clair qu'on ne peut pas engager les gens à la légère, donc on doit faire le minimum, ce que j'appelle moi le minimum syndical. Alors, ce n'est pas toujours facile, hein, je ne dis pas que c'est simple, mais monsieur, vous gagnez combien? Madame, vous gagnez combien? Est-ce que vous avez des crédits à la consommation? Est-ce que vous avez des prêts? Voilà, et à partir du moment où on a fait ça, quel est votre apport personnel? Et justifiez-moi de l'apport personnel, parce que quand je vais aller demain soir transmettre l'offre à mon vendeur, la première des choses qu'il va demander, est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont 30 000, 15 000, 50 000 euros d'apport?
C'est un travail qui est pour le propriétaire, pour l'État du côté
bien sûr.
De Tracfin, mais qui est aussi
voilà,
impact sur le propriétaire, et c'est bien faire son boulot que d'amener des gens qui sont solvables.
Bien sûr, et bien évidemment, je ne téléphone pas à la banque. Je dis simplement au propriétaire, à l'acquéreur en l'occurrence, de me donner un document qui atteste de sa solvabilité, point barre. Ça peut être aussi une étude de financement de la banque, ça peut être tout ce qui permet de sécuriser mon vendeur. Voilà, mon vendeur, il a... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas engager un vendeur sur simplement ce que m'a dit l'acquéreur. C'est bien ce qu'il me l'a dit, je lui fais confiance, mais s'il peut m'amener un document, et on est tout à fait dans la démarche que souhaite le législateur par rapport à la lutte
anti-blanchiment. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même toujours une manière d'en faire profiter son client et d'avoir une bonne expérience client des deux côtés, alors que c'est une obligation légale qui peut être parfois
tout
un peu
fait.
Lourde et un peu
voilà.
Et un
c'est-à-dire
peu
que si on le prend sur l'obligation, effectivement, c'est lourd. Si on se dit on est plus performant pour passer les offres, on l'acceptera davantage. Mais c'est exactement la même chose avec la pièce d'identité. Il y a beaucoup d'agents immobiliers, en tout cas j'en connais, qui demandent la pièce d'identité au moment de la visite. Ça va les aider pour Tracfin, mais le but, ce n'était pas de les aider pour Tracfin, c'était surtout pour que la personne qui signe le bon de visite, on ait la certitude du nom, et que ce soit prouvé par la pièce d'identité. Et le but de ça, c'est surtout pour ne pas être squeezé au niveau des honoraires. Ouais. Mais ça sert aussi pour la lutte anti-blanchiment.
Donc en fait, c'est juste, si vous trouvez ça embêtant, changer de spectre et regarder
voilà.
De l'autre côté, c'est
tout
du processus commercial, c'est s'assurer de toucher ses honoraires, et ça, je pense que tout le monde est content.
Et tout le monde le comprend.
C'est ça. J'aimerais aborder un autre sujet. Tu parlais justement tout à l'heure du compromis.
Oui.
Et tu parlais dans ta formation du fait qu'un des moments, un des moyens d'identifier les soupçons, d'avoir des soupçons, c'est justement pendant la visite.
Oui.
De voir si c'est la bonne personne qui visite, de lui poser les bonnes questions et tout. Mais aujourd'hui, avec la visite virtuelle, par exemple, est-ce que ça enlève pas des...
Oui, alors c'est-à-dire que c'est en train de changer un petit peu la donne, parce qu'effectivement, avec la crise qu'on a traversée, la visite virtuelle est devenue, ou va peut-être devenir très rapidement, la norme. Donc là, effectivement, il va falloir un petit peu attendre le recul par rapport à tout ça. Mais effectivement, la difficulté qu'on va avoir, c'est que la personne, pour l'identification, c'est plus difficile. On ne l'a pas en face de soi. Donc, le législateur l'a un peu prévu, puisqu'il dit que lorsque la personne n'est pas physiquement présente, il faut deux pièces d'identité. Donc, donc ça complique encore le process. Il faut deux pièces d'identité. Donc, par rapport à ces visites virtuelles, à partir du moment où on a la pièce d'identité qui nous a été scannée avec la photo en couleur qu'on a reçue par PDF et qu'on a posé les questions qu'on a dans le process et qu'on n'a pas de doute, Je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de difficultés. Par contre, ça risque d'être plus compliqué quand même. Et puis surtout, il y a aussi quelque chose, et là, je n'ai pas la réponse, c'est que très souvent dans nos compromis, c'est marqué, l'acquéreur reconnaît avoir vu et visité le bien avec telle agence. Bon, la norme jusqu'à maintenant, c'était plutôt de visiter. Et c'est vrai qu'il se développe des
On ne
visites
sait pas
virtuelles.
à quel point
Voilà.
ça va changer, mais ce qui est
Donc,
intéressant dans tout ça, c'est que le professionnel
oui.
doit être prêt pour ce cas-là.
Voilà, il doit être en alerte et de toute façon, il y aura des publications.
Il doit mettre en place un process pour le cas de la personne qui ne va pas visiter,
Oui.
mais qui veut signer un compromis parce qu'elle est
Oui,
prête à
parce
acheter
qu'elle a le
sans avoir
droit.
visité.
Elle a le droit. Alors après, bien évidemment, si je connais déjà le bien parce que je l'ai loué, ben, il n'y a aucun souci. Je connais le bien, je n'ai pas besoin de le revisiter, surtout si j'habite aux États-Unis. Ça c'est des cas qui sont, qui présentent pas réellement de difficultés. Après, c'est si on est vraiment dans la norme de la visite virtuelle tout le temps. Alors, je ne suis pas
Ouais.
certain que tous les clients vont acheter sous forme de visite virtuelle, parce qu'il y en a qui ont quand même envie de voir l'environnement, de se déplacer, de toucher physiquement. Mais il faudra voir un petit peu les publications des différents services de l'État pour voir comment ils vont réagir par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse, on n'a pas
Mais
beaucoup de
aujourd'hui, à
retours.
date, pour
Voilà.
répondre à cette question-là, ce que tu expliques, c'est que les deux choses les plus importantes, c'est un, justifier son identité,
Oui.
deux, justifier des revenus pour la
Des.
capacité à acheter le
Voilà,
bien.
la
Donc,
capacité, hein, les revenus pour la capacité.
ouais.
Est-ce que l'opération est cohérente? Est-ce que
Ouais.
cette personne a la situation financière qui permet
Est-ce que
d'acheter?
là, comme ça, on est capable de se dire, oui, c'est normal qu'il ait cet argent-là pour acheter et je comprends d'où vient l'argent.
Voilà, l'idée, c'est
Et
ça.
ça, du coup, aujourd'hui, avec l'arrivée de la visite virtuelle et sur des secteurs où, quand on est face à une cible qui a plus tendance, typiquement une cible d'investisseur qui va avoir de plus en plus tendance à peut-être acheter sans visiter, il faut avoir prévu un processus pour récupérer les deux pièces d'identité
Tout à
et
fait.
avoir par exemple, un fichier à remplir où la personne va devoir justifier de ses revenus parce que malheureusement, on est
Voilà.
obligé de passer par ces étapes-là vu qu'on ne s'est pas forcément rencontré et vu que la personne ne s'est pas déplacée.
Et on expliquera dans le process que c'est un investisseur, que sa façon d'acheter, c'est ça, qu'on lui a déjà vendu un bien dans l'agence, qu'on a déjà tissé des liens avec lui. On va démontrer que bon, c'est sa façon d'acheter, parce que c'est fait que c'est peut-être un phénomène de mode, j'en sais rien, ça va peut-être perdurer. Mais toujours est-il qu'il va falloir que dans les observations, on le note clairement. Et puis, partant de là.
Pour se protéger un maximum,
Tout à
valider
fait.
qu'on n'a pas de
Tout à
soupçons,
fait. Tout à
enlever
fait.
les soupçons justement
Tout à
parce que le
fait. Lever
soupçon
le
est
doute, c'est ce qu'on
permis,
appelle,
ouais,
c'est le
c'est.
lever de doute. Si j'ai un soupçon, on peut avoir des soupçons. Mais c'est lever le doute qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bon, c'est une vente qui est tout à fait normale, qui se passe dans des conditions classiques. Le fait qu'une personne sans emploi ne fasse pas de prêt alors qu'elle n'a pas de revenus, ce n'est pas du tout la même chose qu'un client qui dit, j'ai un financement à 80% à ma banque et je
Si je l'ai
justifie.
justifié, il n'y a pas
Voilà.
besoin.
Alors il y a du déclaratif, hein, très souvent ça sera du déclaratif, il y a aussi des documents. Et dans les dossiers un petit peu compliqués, où on sent qu'il y a quand même un risque, je pense qu'il faut se protéger avec des documents. En fait, c'est le risque qui va nous demander de récupérer davantage de
C'est
documents.
être capable de prouver que
Voilà.
nous, on a fait tous les efforts
Voilà.
pour lever le
Voilà.
doute,
Et
justement.
après, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir trouvé quelque chose. Peut-être que ça n'était pas visible.
C'était bien
Voilà. Mais par
caché.
contre, on a fait le process pour éventuellement le mettre en évidence. Et en tout cas, à notre niveau, on n'a rien
Le
vu.
gars était bon.
On n'a rien vu. Et c'est peut-être le notaire qui va se rendre
Ouais.
compte que le virement provient d'un paradis fiscal. Ou c'est peut-être la banque qui va se rendre compte de transactions un peu bizarres sur le compte. Et l'agent immobilier ne pourra pas être inquiété. Parce que là encore, ça n'est pas la brigade financière, l'agent immobilier. Donc il faut
Ouais,
être juste.
il doit pas mener l'enquête, mais il
Non,
doit
du
faire
tout.
tous les éléments pour lui ne pas avoir
Voilà.
le doute et pouvoir faire sa transaction.
Il doit se forger sa conviction, son opinion. Voilà,
Et
c'est ça.
justement, il y a une autre chose que j'ai en tête là pendant qu'on discutait, c'est
Oui.
aujourd'hui avec l'arrivée des bitcoins, de toute
Ouais.
cette typologie d'argent-là, où de plus en plus on va prôner le fait qu'il faut accepter les bitcoins parce que ça devient une vraie monnaie ou l'Ether ou peu importe la crypto-monnaie dont on parle. Est-ce que tu as une vision sur ces sujets-là
Alors,
ou comment tu vois les choses par
pas
rapport à Tracfin?
encore, parce que ça reste encore assez nouveau, en tout cas dans l'immobilier. Ce qui est sûr, c'est que c'est une grosse inquiétude des services de Tracfin, tout ce qui est crypto-monnaie, parce qu'effectivement, il n'y a pas. En tout cas, au niveau de l'État, les mêmes contrôles qu'on peut l'avoir dans une banque, qui a un organe de régulation, qui est contrôlé, qui rend des comptes. Voilà. Alors, je ne dis pas que le Bitcoin, il n'y a pas de contrôle. Je dis simplement que l'État a moins la main sur les contrôles, en tout cas. Et donc, là aussi, il va y avoir des publications. Hein, je sais qu'il y a certains avocats qui disent qu'on ne peut pas vendre un bien dans l'immobilier avec des bitcoins. Il y a d'autres juristes, il y a des notaires qui ont passé des ventes avec des bitcoins. Donc là, effectivement, je n'ai pas encore le recul. Il va falloir s'y intéresser parce que je pense que ça va nous arriver très très vite dans les cabinets. C'est déjà arrivé dans
Et
certaines agences, en tout cas.
donc au final, la réponse est quasiment la même que pour la visite virtuelle, c'est de se dire, on n'a pas encore la jurisprudence à ce sujet-là. Par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on doit lever le doute. Donc, se dire, il dispose de cet argent en Bitcoin, de la même manière que s'il dispose de cet argent à la banque, il faut que ce soit en accord avec la manière dont il a eu ses revenus. Il faut qu'il y ait un accord là.
Ça va être difficile sur le Bitcoin. En fait, honnêtement, si ça arrivait dans mon cabinet, je poserais la question à un avocat en lui disant, voilà, je suis embêté sur un dossier, comment ça va se passer? Je poserais la question à mon notaire. Peut-être que le service juridique, hein, le Cridon des notaires, a aussi une analyse. Mais tout ça est en train de bouger. Ce que je sais parfaitement, c'est qu'au niveau de TRACFIN, ça pose tout ce qui est crypto-monnaie, financement participatif, ça permet de blanchir beaucoup plus facilement que d'aller mettre de l'argent sur un compte en
Donc, on
banque.
attend que TRACFIN bouge.
Donc, on va attendre un petit peu de voir. Voilà, la réponse,
La
on n'a pas
réponse à la
encore.
question, c'est la newsletter de TRACFIN.
Exactement.
Bien continuer à suivre, se rapprocher d'un avocat et sinon continuer à faire les
Oui.
gestes clairs pour lever le doute, savoir
Tout à
combien il
fait.
gagne et justifier de son identité.
Tout à fait.
On
Et
en
donc, par
retourne
rapport à
à.
sa prudence. Voilà. Prudence, on n'a pas encore le recul suffisant.
Bon, en tout cas, c'est un sujet qui est très intéressant. Je trouve qu'il a de la valeur pour les professionnels de l'immobilier parce que ça justifie encore plus leur statut de professionnel de l'immobilier parce que c'est un vrai maillon de la chaîne
Complètement.
de l'État et de la transaction immobilière. Donc, c'est jamais inintéressant d'avoir des choses à faire en plus, surtout quand on peut le prendre de l'angle pour aider les
Oui,
clients qu'on sert. Merci beaucoup pour cette
mais de rien.
formation.
Merci à toi. Merci. Et puis mettez tout ça à profit le plus vite possible. Hein, vous savez que les contrôles existent. Donc ce serait dommage d'avoir fait cette formation et de se faire harponner par la patrouille. Hein, donc mettez ça pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, hein, pour les retardataires. Mettez ça à profit le plus vite possible dans vos agences. Vous serez beaucoup plus tranquille après.